chers amis, c'est un plaisir ce soir d'avoir parmi nous Rabbi Yaakov Abergen. Vous savez qu'encore 2-3 jours c'est Kippour. Alors n'importe qui parle, c'est déjà important, mais à plus forte raison quand c'est un rabbin de qualité comme Yaakov. Alors j'espère que Bezrat Hashem, ces paroles-là, ils vont servir un petit peu à nous réveiller. Et Bezrat Hashem, on passera un Kippour magnifique, parce que le Kippour, tout le monde va jeûner, je suis sûr et certain. Le problème, il est qu'il faut obtenir la kapara à la fin de Kippour. Et pour obtenir la kapara à la fin de Kippour, il faut qu'on ait un petit peu de... l'intraveineuse, là. Et c'est quoi l'intraveineuse? C'est ce qui va nous raconter les paroles de la Torah, qui vont nous un petit peu réveiller, à nous mettre dans le concept Kippour, bien comme il faut, pour qu'on puisse réveiller notre cœur. Il va nous parler un peu de Tfila, il va nous parler un peu de tout. Et Bezrat Hashem, le Kippour qu'on va passer cette année, il sera peut-être le dernier Kippour dans la Galoute. Et Bezrat Hashem, l'année prochaine, on sera tous à Yerushalayim Ira Kodesh, avec le Beth Amikdash, et avec pas de problème de finances, pas de maladie, toutes les bonnes choses qu'on peut souhaiter. Cette année, Bezrat Hashem, ça sera la meilleure année, Bezrat Hashem Idbar. Ça dépend de nous. Si on fait un bon Kippour, Bezrat Hashem, tout est garanti. Bezrat Hashem, je crois que le Rabbi Yaakov, il est prêt. Il va nous faire un bon shiur.
Oh Hachem, je suis encore une fois très très touché, très ému d'être avec vous. Et bah, oh Hachem, moi chaque fois je tourne partout et tout ça, et à chaque fois que j'arrive à Londres, c'est le meilleur endroit du monde. Vraiment, à chaque fois je vais partout et ça, je retrouve, mais quand je viens voir vos têtes, vous êtes les meilleurs. Et je vous aime tellement. Je suis tellement heureux de vous retrouver et ça me fait très plaisir. Et Bezrat Hashem, j'espère que le fait que mon cœur il est empli de joie et de bonheur, ça fera en sorte que je puisse mériter, parce que on dit que quand un homme il est sa mère, alors il a la Shrina qui est Shruya avec lui, la présence divine elle réside avec les gens qui sont heureux. Alors Bezrat Hashem, par ce mérite de cette joie qu'on a et qu'on va éprouver tous ce soir, notre cœur il va s'ouvrir et on va pouvoir Bezrat Hashem faire teshuva. Et je prie Bezrat Hashem qu'Akadosh Baruch Hu il nous ramène tous bitshuva, qu'on sort de ce shiur avec, en étant des gens nouveaux. Parce que teshuva c'est une bria chadasha, une nouvelle créature. On est rentré hel des mehboul et on va sortir comme des tzadikim Bezrat Hashem. Je voudrais dédier ce cours bien sûr à la mémoire de papa, à la vachalom, à Vimori Machlou Ben Shabazora, Bezrat Hashem qu'il prie pour nous, pour qu'on puisse faire tous teshuva, et aussi pour la réfoua chelema de nombreuses personnes qui sont en ce moment fatiguées, notamment notre grand-père Rabbi Yaakov Ben Yamna, aussi Shalom Ben Perla, aussi Sultana Batrana, si quelqu'un y connaît que Khana Bat Sultana Bezrat Hashem, et s'il y a de la population qui connaît aussi des gens qui sont fatigués, ils peuvent nous les citer, et sinon qu'ils y pensent à eux Bezrat Hashem, et à Kadash Bokhu il saura les reconnaître pour leur donner la réfoua chelema Bezrat Hashem. On va parler de deux parties de la teshuva. La teshuva, elle s'opère sur deux grands pôles. Elle s'opère d'après les fautes que l'homme il a commis par rapport à Kadosh Baruch Hu et par rapport aux fautes que l'homme il a commis par rapport à son prochain. Et ces deux pôles, ils sont interdépendants l'un de l'autre. Ça veut dire que si quelqu'un il vient et qu'il fait teshuva par rapport aux fautes qu'il a commises envers Hachem, ça ne le dédouane pas de ses responsabilités de teshuva envers son frère qu'il a blessé. Et le shiur de ce soir, on avait le choix entre deux shiurim et tout ça, et Baruch Hashem, Akadash Baruch Hu, il m'a montré qu'il faut que je vous dise ça parce que c'est vraiment extraordinaire. C'est le Rav Steinman qui m'a inspiré dans ses paroles. Le Rav Steinman est le maître de la génération. Il compte parmi les plus grandes sommités de la génération. C'est un homme, un tzaddik qui est très 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 âgé. C'est le Rosh Yeshiva de toutes les yeshivot d'Israël. Et Baruch Hashem, il nous a inspiré dans ses paroles. Et ça s'appelle en fait, le titre de ce shiur s'intitule Sans la crainte du ciel, on ne peut pas aimer son prochain. Parce qu'il y a souvent des gens qui se disent être les juifs du cœur et tout ça, et qui pensent qu'on peut faire que les commandements qui sont liés de l'homme par rapport à son prochain et tout ça. On va faire une démonstration ce soir, Bezrat Hashem, et à travers cette démonstration, on va essayer de faire teshuva sur ça, que si jamais on n'a pas la crainte du ciel et qu'on ne fait pas les commandements de l'homme vis-à-vis d'Hachem, alors il nous est très difficile de faire les commandements de l'homme vis-à-vis de son prochain. Pour commencer, je voudrais vous évoquer dans cette introduction le fait que la teshuva Baruch Hashem elle efface toutes les fautes. Et la teshuva, on voit un minag des kadmonim, des anciens qui faisaient les selichot, puisque c'est les selichot en ce moment, on se lève pendant les 40 jours et ça se passe à une heure bien précise, Et vous allez voir, j'ai Baruch HaShem eu le mérite de recevoir un Likout. C'est un recueil de textes qui a été compilé par un des grands tzadikim de la génération, Rabbi Yosef Toledano, chez Ibadele Chaim Tovim, quelqu'un qui a une Riat Shamaim très, très 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 grande. J'ai eu le mérite de dormir avec lui pendant quelques temps. Je me suis approché de lui et tout ça, et je vous dis, c'est vraiment, vous voyez un malach devant vous, un ange, quand on voit aujourd'hui toutes les têtes des gens spéciaux et tout ça qui sont dans la population et tout ça, quand on voit un peu des malachim comme ça, je vous assure, ça donne la tsoura d'un ben adam. On prend conscience que ce que c'est un vrai homme, un vrai fils d'Akadosh Baruch Hu. Et Baruch HaShem, regardez bien ce qu'il nous dit, c'est quelque chose pour nous réveiller. Regardez. Et tatsmenu anachnum vakshim. Qu'est-ce qu'on fait dans les slichot? Qu'est-ce qu'on fait dans ces jours de teshuva où on doit être à la recherche de nous-mêmes? La teshuva, c'est le retour vers Hachem, le retour vers soi-même, vers l'essentiel de notre personne, vers notre neshama, vers notre moi qui s'est malheureusement enfoui par le biais du etzera qui nous a endormis et qui nous a anesthésiés. Vous pourrez le voir Bezrat Hachem dans le CD des shiurim. C'est le dernier shiur qu'il y a. Il s'appelle le plus grand anesthésiste du monde, c'est le etzera. Il travaille à l'hôpital Adassa là-bas, c'est Maboul, dans le grand hôpital, c'est le chef de service là-bas, il est redoutable. Il vient, il te fait une piqûre, il te fait oublier ce pourquoi tu es là dans ce monde. Alors justement, ce shlichot vise à retrouver ce pourquoi nous sommes venus ici. Écoutez bien ça, Rabotai, je vous le fais en version originale. C'est bien parce que c'est vous. Vous êtes des Britanniques, vous. Noagim anachnu lakum lifnei alot hashachar. Nous avons l'habitude de dire à Alot HaShachar. Alot HaShachar, c'est les premières heures de la journée, ça veut dire avant que le soleil se lève. Après la moitié de la nuit, donc quand l'obscurité réside et règne alors dans le monde, et on va à la synagogue à ce moment-là, on allume une bougie, et à la lueur de cette bougie, nous récitons les Selichot. C'est comme ça que ça s'est passé dans le temps. Maintenant, on est devenu des modernes et tout ça, on vient à Marlborough, je ne sais pas comment ça s'appelle le truc là, Swiss Cottage Man, yes, no problem. Moi j'aime bien Swiss Cottage parce que ça me rappelle le cottage qu'on mange en Israël. Alors, ici on vient avec ces lumières, c'est pas des lumières la bougie, mais Bezrat Hashem, je ne sais pas si quelqu'un il a une bougie avec lui, il faudrait convoquer Rachid avec nous, mais si quelqu'un il a une bougie, en tout cas, si jamais il peut l'allumer, peut-être on peut l'éteindre, comme ça on se met dans l'ambiance. La madavka balaïla, le or aner, velo bayom le or hashemesh. Pourquoi on doit faire ces selichot à la lumière d'une bougie et pas à la lumière du soleil? Si jamais on voulait sonder notre comportement et rechercher à l'intérieur de nous-mêmes les éléments négatifs qui se sont infiltrés, alors la lumière du soleil, elle est beaucoup plus puissante que la lumière de cette bougie. La raison connue, c'est que c'est un moment de miséricorde. Au moment où la nuit, elle est présente, au moment où c'est avant le lever du soleil, c'est un moment de miséricorde extraordinaire. À tel point que le Rambam nous dit que l'Olam, il ne faut jamais annuler des nuits d'études. Normalement, l'homme il devrait étudier la nuit parce qu'il y a un fil de chesed qui le relie à son créateur et la shrina, elle est en face de lui. Ça veut dire que toute la nuit, quand il est en train d'étudier, Kadosh Baruch Hu, il vient, il est présent, comme il est présent avec nous, Baruch HaShem, parce que chaque fois qu'il y a un mamad de Torah, que les gens ils viennent pour étudier la Torah et les mitzvot et qu'ils se renforcent, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous et il est en train d'être madlik, cette neshama teora et gdosha qui a au fond de nous, cette âme pure qui a malheureusement été anesthésiée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est en train, Bezrat Hashem, de nous réanimer maintenant. Mais de la même façon, quand quelqu'un il est la nuit et qu'il est en train d'étudier, il y a Hashem, même s'il est tout seul, Hashem il est en face de lui. Aval, donc ça c'est l'explication littérale. Quelqu'un, pourquoi on doit faire les slichot la nuit? Tout simplement parce que c'est un moment de miséricorde. Aval remez acher nirmaz be'amirat haslichot le'oraner anerot alalu. Chez le'oram anachnu omrim slichot, il y a une explication plus profonde, une explication qui va au-delà, qui nous explique la raison pour laquelle nous devons lire les slichot à la lumière de cette bougie. Domim be'kavanatan le'ner shel or le'arba asar benissan. Cette bougie-là, mes chers frères, mes chères sœurs, elle ressemble à la bougie avec laquelle on fait Bdikat Hametz. Quand on doit faire la Bdikat Hametz, la recherche du Hametz, le 14 Nissan, dès que la nuit elle tombe, on doit commencer à aller chercher, ça ressemble à cette bougie. Qu'est-ce que ça a à voir? Beotolaïla, Botkim Leoro et Tachametz Bebaït, Bigde Lebaero, Lamrot Shanachnu Yodim, Che El Hametz Babaït, En Turin Mbdika, Ki Bdikazo, Masmelet I Lechipus ou Bdika Acheret. Il dit quelqu'un qui sait pertinemment, parce qu'on a Baruch Hashem nos femmes qui sont des tzadkaniot et tout ça, et d'ailleurs j'ai une petite pensée pour ma femme qui me manque beaucoup, et mon petit enfant Ishaï Marlouf, le tzadik, vous avez dû le voir et tout ça, il me manque tellement, j'aurais bien voulu vous le montrer ici. Il aurait assisté au shiur avec nous, mais vous n'aurez pas été concentré parce qu'il est mignon. Alors il a bien fait de rester chez lui, il sera plus utile là-bas, mais je vais le retrouver demain, Bezrat Hashem. Nos femmes, Baruch Hashem, elles ont le mérite de faire la bdikat hametz, elles font attention, elles recherchent. Et c'est sûr que quand toi tu t'apprêtes à faire ta bdikat hametz, tu n'as pas besoin d'aller à cette recherche du hametz, parce que tu sais que déjà tout a été éliminé. Qu'est-ce que tu commences à faire avec ta bougie là-bas à aller chercher? Adam Israël mechouyav beyom min hayamim livdok et atzmo. Alors c'est quoi? Pourquoi on doit faire cette bdikat hametz? Parce qu'il n'y a pas que le hametz, le hametz concret. Il y a aussi un hametz concret. Adam Israël mechouyav beyom min hayamim livdok et atzmo lechapes achar hametz belibou mocho. Il doit chercher le hametz qu'il y a dans son cœur et dans son cerveau. Il a été pénétré par des pollutions qui l'ont éloigné de son créateur. Et c'est sur ça qu'il faut rechercher à la lumière de cette bougie. Cette lumière de la bougie qui est la Torah. Moroi Verabota, nous vivons dans l'obscurité. Aulam Azedomel Laila, nous dit la Gemara, dans Baba Metzia. Nous vivons dans l'obscurité. Et la seule lumière qui peut nous éclairer et guider nos pas, éclairer nos yeux et notre cœur, c'est la lumière de la Torah Akdosha. Puisqu'on sait qu'Iner Mitzvah avec Torah Or, la Torah c'est la lumière. Et la Mitzvah aussi c'est la lumière. C'est la seule chose qui peut éclairer les sentiers sinueux de ce monde obscur dans lequel nous vivons. On vit dans l'obscurité mais avec des repères éblouissants. Ces repères éblouissants, Rabotai, c'est la Torah Akdosha, c'est elle qui nous donne la vie. C'est elle qui nous fait voir le véritable émet, la véritable raison d'être. C'est pour ça que cet homme-là, il doit chercher ce Hametz qu'il y a dans son cœur et dans son cerveau. Les Pashpesh Acharet Dofi chez Beofen, Ayoub Beto Beasakav, ou Bechol Makom chez Merutzet Achaim. Il doit chercher dans tous les endroits de sa vie. Qu'est-ce qui n'est pas en adéquation avec la volonté de son créateur? Aknisab et tout ce qui est rentré comme défaut et comme Chimutz ou le Vairam. Et il doit tout chercher, quels sont les défauts qui sont rentrés en lui et les éléments négatifs qui l'ont repoussé d'Hachem et les détruire. De la même façon qu'on doit détruire le Hametz. Vechipouze, loitachen ayom leoraner, sheachaim roachim. Maintenant on va répondre à la question pourquoi on doit le faire à la lumière de la bougie, on a compris pourquoi. Mais pourquoi on doit le faire la nuit? Et pourquoi on ne peut pas le faire le jour à la lumière du soleil? Ça aurait été plus facile. Regardez ce qu'ils nous disent ici. Ripouze, loitachen ayom le or hashemesh, kshachaim roachim misaviv, vechoderim le tocho. Et là, davka balayla, kshébechol nishmatecha, en mischar ve en avoda, en amouar tarout benyane avel, omrim lo le adam. Il dit, il faut le faire, on ne peut pas le faire en pleine journée. Parce que malheureusement, en pleine journée, on est là-bas sur Bloomberg TV et tout ça, on est en train de se faire des mails avec 50 000 personnes. Après, on reçoit des touloudoun, touloudoun. Vous connaissez le truc des MSN et tout ça, qui t'envoie des mails toutes les secondes et tout ça. T'as pas la tête à faire tchouva. T'es plongé dans la modernité, t'es plongé dans le progrès, t'es plongé dans les 12 000 coups de fil que t'as à la seconde, t'es en train de répondre là-bas et tout ça, tu parles avec Jacqueline sur une ligne, t'es en train de parler avec trois téléphones, t'as le fax portable par ici, par là. Le gars, il est fou. Il n'a pas le temps de penser, il n'a pas le temps de se recueillir, il n'a pas le temps de se retrouver à la lumière de ce soleil quand toute l'humanité et le brouhaha, il entend cette chose-là, il ne peut pas. C'est la raison pour laquelle il doit attendre. La nuit, il n'y a plus personne qui te dérange. Les gens, ils sont en train de dormir là-bas sur MSN, ils se sont fatigués, ils sont tombés là-bas sur leur écran, ils sont allés se coucher. Personne ne va te déranger. Le téléphone de Bloomberg et tout ça, ça y est, les gens, ils se sont couchés, tout ça, même s'il y a le décalage horaire, mais ça y est, ils ont fermé parce qu'ils savent que toi, tu dois te reposer un petit peu à ce moment-là. La personne, elle va se retrouver avec cette lumière discrète. Cette lumière si discrète de la bougie, mais c'est essentiel, Rabotai. Cette lumière de la vie. Cette lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et on va lui dire, Amod Rega, lève-toi mon enfant. Il va commencer à entendre la voix de son créateur dans le ciel. Adlek ner nishmatecha. Allume la lumière de ton âme. Allume cette lumière qui brûle au fond de toi. Ul oro lecha uvdok et achamet sebekirbecha. Et à cette lumière de cette neshama, va et recherche le hametz qu'il y a à l'intérieur de toi, tous les éléments qui t'ont fait gonfler et qui t'ont fait oublier ce pourquoi tu étais venu dans ce bas monde, pour te préparer pour pouvoir accueillir la présence divine, pour te préparer pour être ce réceptacle de la lumière d'Hachem, cette lumière infinie qui va nous emplir aussi bien dans ce monde que dans le monde de la vérité. Et plus l'homme il se sera préparé, plus l'homme il aura recherché scrupuleusement à l'intérieur de lui pour se parfaire et pour se perfectionner par le biais de la Torah et des mitzvot, comme c'est marqué, Rabbi Chaya ben Akasha Omer Atzak, les Akot et Israël. C'est quoi les Akot et Israël? Les Fichach Irbalaim Torah Mitzvot. Rabbi Chanina, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a voulu rendre méritant les Bnei Israël. C'est la raison pour laquelle il leur a multiplié la Torah et les Mitzvot. C'est quoi ça? Il a voulu nous rendre méritant, il a voulu nous rendre pas méritant. Si on avait été méritant, on aurait eu moins de fardeau. Enfin, Rabotai, pour comprendre cette chose-là, il faut connaître quelle est la racine de les Akot. Les Akot, ça vient de l'Eish Daker. Et Yidaker, ça vient de purifier. On sait que quand on fait des mitzvot, c'est marqué Asher qui deshanu be mitzvota vetshanu. Les mitzvot, elles font rentrer de la gdusha en nous. Elles rentrent de la pureté en nous. Plus on fait des mitzvot, et plus la neshama se purifie, et plus elle pourra contempler la présence divine avec proximité. Et c'est pour ça qu'on remercie Akadosh Baruch Hu, qu'on n'est pas comme les autres peuples qui ont que 7 mitzvot à faire. Nous, on en a 613. Et plus tu fais ces mitzvot, et plus tu peux te charger de cette lumière. Alors là, allume cette neshama et commence à chercher le Hametz qui t'a éloigné d'Hachem, ou ba'er oto et détruis-le. Ou mitzvazo mitkayemet gam beyeme aslichot. Et on nous dit le Rav Yosef ici, que si déjà cette mitzvah, elle a cours d'après le Ritbaz, qui est un des grands commentateurs de la Torah, elle doit être faite, cette recherche du Hametz, dans le cœur et dans le cerveau à Pessah, alors à la Chat Kama Vekama, à plus forte raison, pendant ces jours qui sont propices à la Teshuvah, ces jours qui sont propices à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est les jours dans lesquels on doit sonder notre cœur et nos reins, on doit commencer à faire le bilan de conscience, on doit faire le bilan de l'année, de la même façon qu'on fait le bilan comptable et tout ça dans nos entreprises, on doit faire le bilan de notre personne. Voilà cette entreprise, comment elle se porte, cet Adam qui est un Olam Katan, c'est un petit monde, comment tu l'as géré ce monde-là? Arrête-toi quelques instants et commence à penser. Pendant ces jours-là, on peut effacer toutes les mauvaises choses qu'on a fait, Rabotai. La tchouva, elle efface tout. La Gemara dans Maseret Yoma, elle dit que c'est quelqu'un qui fait tchouva par amour, comme Bezrat Hashem, vous êtes en train de faire ce soir et comme on est en train de faire. Et je vous dis, moi, je parle le premier. Et c'est moi qui fais tchouva avec vous, par votre mérite. Si moi, je ne fais pas tchouva, je ne peux pas convaincre personne. Quand je suis en train de vous parler, je me parle à moi. Et Bezrat Hashem, par le fait que je me renforce, alors on se renforce tous ensemble. Et c'est comme ça qu'il dit. Quelqu'un qui a compris, il est en train de réfléchir et de penser. Il va commencer à se dire, maintenant, il faut que je fasse tchouva. S'il fait tchouva par amour, toutes ses fautes, elles sont converties en mitzvot. Ça veut dire que le gars, il passe du criminel là-bas qui est recherché par la CIA, les narcotiques et tout ça, et tous les plus grands criminels, tous les plus grandes polices des polices et tout ça, le FBI et les siens, la Guardia Civile, c'est les Espagnols, et ceux avec le tarbouche de la reine Elisabeth là-bas, le tarbouche en fourrure là, que je les ai vus là-bas. Chacun, il a des équipes et tout ça. Et bien, il passe de ça à ce que les anges, les malachim dans le ciel, ils viennent et ils le recherchent, ils disent à Kadosh Baruch Hu, regarde cet enfant. Regarde, il a fait tchouva. Regarde comme il est plein de lumière. Regarde comme il est plein de gdoucha et de tara. Il est plein de pureté, cet enfant. Et Akadosh Baruch Hu, il est fier de nous. Il est content, Hachem. Il pleure de joie de voir que ses enfants, ils sont revenus. Parce qu'Hachem, il sait que la seule joie qu'on peut avoir, c'est dans la Torah et les mitzvot. C'est pour ça qu'Hachem, il nous attend, Rabotai. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il vient à notre rencontre. C'est pour ça qu'Hachem, il est avec nous et qu'il nous appelle. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on détruise ce Hametz qui nous a tenus à distance. Alors si déjà on doit faire cette recherche du Hametz à Pessah, alors à combien de plus fortes raisons on doit le faire pendant ces 10 jours de Tshuva? Mais ça prime al tzadik echad ve Rabbi Chaim Shemo, Sheraou oto madlik ner balayla veoler sachouach. On raconte sur un homme qui s'appelait Rabbi Chaim, qu'un soir il a allumé cette lumière et il a voulu aller faire ce minag, d'aller faire les svichot dans une bêta knesset. Et il allait là-bas, comme si jamais il était préoccupé, déboussolé, en train de chercher d'un bout à l'autre de la pièce. Ils lui ont dit, mais ça c'est la recherche qu'on fait le Hametz. Ça c'est quand vraiment on a appelé ça. Mais là c'est les 10 jours de Tshuva, qu'est-ce que tu es en train de faire? Toi t'as fait le Pshat, tu t'es trompé peut-être. Mabit, Anna, Veana, Keilu, Mechapes Davar, il est en train de chercher partout, il regardait partout comme s'il avait perdu quelque chose. Ou que chez Shalou, Mata Mechapes, ils lui ont dit, mon frère, Rabbi Chaim, qu'est-ce que tu es en train de chercher? Et Shivlo et Chaim Irshil, Anim Vakesh, je suis en train de chercher Chaim Irshil. Je suis en train de me chercher à moi, je me suis perdu. Omnam yesh chayim irshil aochel veshote metayel beyom veyoshen balayla. C'est vrai qu'il y a le chayim irshil qui mange, qui boit, qui se balade, qui est en train de dormir la nuit. Socher veoved, il travaille, il fait du commerce. Aval chayim irshil ze enenu chayim irshil amiti. Ce chayim irshil là, c'est pas le vrai chayim irshil. Celui-là, c'est juste une apparence du chayim irshil. C'est juste une façade du chayim irshil. Je cherche le vrai chayim. Je cherche la vraie neshama. Je cherche l'intégrité de ma personne, l'intériorité de ma personne, la vérité en moi. Je cherche mon moi, ma personne. Qui a reraïti ayom chayim irshil acher. J'ai vu un autre chayim irshil que celui qui est vrai. Il était posé là-bas dans la terre et tous ses membres, ils étaient pleins. Et Omri Malav chez Oumet, et il a dit qu'il était mort. Qui a kol yodim chez Zé à Ish, chez Achal Veshata, parce qu'il est en train de boire et de manger. Av Bechayav, Ayamet, et là chez Betocho Chay Chay Mirshil, Acher, ou Beoto Chay Mirshil, Acher, Anochi Mevakesh. À l'intérieur de ce Chay Mirshil, qui est un mort vivant, c'est juste un cheval, c'est juste une façade, c'est juste une apparence. Il y avait une source de lumière extraordinaire, le Ensof, l'infini, la prolongation d'Hachem, qui est la Neshama Kdosha et Teora. C'est celui-là que je suis en train de rechercher, parce que je me suis égaré. Rabotai, on est des touristes.
On est des touristes, on s'est perdu. Il nous faut un GPS pour retrouver le chemin. Le GPS rabotaille, c'est la Torah Kdosha. Cette Torah de lumière, c'est la seule qui peut nous ramener jusqu'à Hachem parce qu'on s'est perdu. On a oublié qu'est-ce qu'on était venu faire dans ce monde. On a oublié qu'est-ce qu'on était venu faire. Hachem, il nous a placés dans ce monde pour qu'on puisse ramasser des diamants. Et nous, on vient, on troque ces diamants avec des petites pièces qu'on laissera ici, alors qu'on pourrait ramasser des choses qui pourront nous tenir pour l'éternité. C'est à cette recherche, rabotaille, qu'on s'invite pendant ces 10 jours de tshuva, pendant ces jours de Sikhot. C'est ça qu'il est en train de chercher, ce Rav. Et Rabotaï, ce tzadik, cette lumière, si déjà lui, il est en train de rechercher, combien de nous on doit rechercher? Combien de nous on doit essayer de faire attention? Combien de nous on doit se sentir concerné par cette chose-là qu'il faut aller à la recherche de nous-mêmes? Et comme ça, on peut expliquer le verset dans Parasha Kitavo. Regardez comment c'est beau, Rabotaï. Ager asher bekirbecha ya'ale alecha mala mala, v'ata tered mata mata. C'est marqué dans les klalot, dans les malédictions, que les Bnei Israël, auxquels les Bnei Israël seront assujettis si jamais ils ne font pas la Torah et les mitzvot. C'est marqué là-bas dans ces klalot que l'étranger qui sera auprès de toi, il te dominera et il montera très haut, très haut. Et toi, tu descendras de ton statut de dirigeant des peuples et de lumière des nations et tu descendras très bas, très bas. C'est l'explication littérale. Mais celui qui a compris ce commentaire extraordinaire que nous venons de dire, il y a une autre explication qui est tellement belle. Écoutez bien cette explication. Il dit, de quoi on te parle? On te dit en fait que ce Chaim Hirschil qu'il est en train de voir, qui est en train de manger, qui est en train de boire et tout ça, c'est un étranger. C'est lui l'étranger qui va te dominer. C'est l'étranger qui vient en toi, qui va monter, monter. Et Veata, et toi, ton vrai toi, ta neshama kdosha, ça va descendre, ça va descendre. Ça veut dire que la partie extrinsèque de ta personne, la partie secondaire et accessoire de ta personne, elle va prendre le pas et elle va monter. À la manière de gens aujourd'hui. Wahd le mahboul là-bas ici, Baruch Hashem, je vois que je vais pouvoir faire cette scène parce que personne ne va se sentir visé. Le gars aujourd'hui, tu le vois, il passe à peu près 6 heures devant sa glace, en train de se regarder là-bas. Il est en train de se faire wahd la coupe aérodynamique. Frère Sonic le head dog, le Sonic le hérisson. Je sais que vous comprenez un peu l'anglais ici, alors je vous le dis. Le gars, il presse 3 heures en train de faire la coupe là-bas de Sonic le hérisson. Habibi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de déguiser le cheval. Ton cheval, tu es en train de lui faire une coupe aérodynamique. Qu'est-ce que tu fais de ta neshama kdosha et tera? Est-ce que tu prends soin d'elle? Est-ce que tu fais attention à elle, mon fils? Tu t'es trompé. Tu es en train de t'occuper de l'étranger qu'il y a au fond de toi. Où est passé la vraie personne qu'il y a dans toi? Où est-elle, celle-là? Tu l'as oublié. L'étranger qui est en toi dominera beaucoup, beaucoup. Et ton intériorité, qui est pourtant l'essentiel dans ce monde, elle descendra beaucoup, beaucoup. C'est ce que le verset nous dit dans Parashat Kitavo, c'est ça la grande klala qu'il y a ici. Ata'amel vedoeg keilu ou ma'ala ma'ala. Toi, tu commences à travailler beaucoup parce que tu veux t'occuper de ce cheval. Tu veux l'entreposer dans une très belle écurie. L'écurie Ferrari. Porsche Ferrari, Ada, il est venu avec lui au volant de sa Porsche Ferrari, Ada. Il a dit, le cheval, il faut le mettre dans son écurie et tout ça. Il est content. Et toi, Chaim Hirschil, ta véritable entité, ton essence, ta neshama, qui est la vraie, à ta toshav, qui chayav nitzachim, tu dois faire attention à ça parce que ça c'est la vie éternelle. Ce cheval, on vient de la poussière et on retournera à la poussière, notre corps il va retourner à la poussière. La neshama kdosha, elle est appelée à vivre éternellement. Tered matamata al goralo. L'oerpat le chaklum, t'en as rien à faire de ta personne, t'en as rien à faire de ton intériorité, de ton essence. Qu'est-ce que tu fais? Veaz anachnu, tmeim umekshim beshoalim, chayim irshi lefuata, où es-tu mon fils, où es-tu mon frère, où es-tu passé? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Où c'est que tu t'es perdu? Tu t'es perché là-bas dans la campagne? Tu t'es perché dans la cambrousse de plan de cuc? Des villes profondes là-bas de Marseille. Je sais qu'il y a des gens de Marseille dans le secteur ici. Tu t'es perché là-bas dans ton vieux Babel Oued au Burkina Faso, à Ouagadougou. Tu t'es retrouvé là-bas en pleine capitale. Qu'est-ce que tu fais là-bas, Habibi? Efouata, Chaim Hirschil, Cheli. Où es-tu, mon fils? Zeshri Bebetecha, Shafta Shrina, celui que dans sa maison, il y avait le Shabbat, la Shrina, et dans les Yamim Tovim, il y avait la Shrina. Et Fouata Shekol Rouchacha, Bechol Chiotcha, Ayou Betora ou Bemashim Tovim, que toute ta vie elle était dans la Torah et dans les Mashim Tovim. Où es-tu passé? Tu as oublié c'est pourquoi j'étais venu. Je me souviens qu'avant tu comprenais cette chose-là. Attends, chez Bekat, Diratecha, Bebate Knesset ou Bebate Midrasha, toi qui avais fait de la Beta Knesset et de la maison d'études. Tu avais fait ta résidence principale, et fois atteint, chez Masarta Nafshecha, Lechanech et Banecha, Almibuat Toretecha Veira, que toi tu avais sacrifié ta vie pour pouvoir éduquer tes enfants dans la Torah et les mitzvot. Où es-tu passé? Ven Lecha Adam Israël, Shelo Yea, Sheelot Alalu, Minekarot et Mocho, ou Mevarerot et Libo. Rabotai, il n'y a pas une personne qui ne peut pas se sentir concernée par ça, Rabotai. Je ne sais pas si vous vous ressentez. Moi, j'ai lu ça, j'ai pleuré avec mes larmes. J'étais en train d'étudier avec un ami hier ou avant-hier. J'ai lu ça. Quand, c'est comme ça qu'on doit étudier le Moussa, Rabotai. Quand quelque chose, ça vous touche. Maintenant, Bedrat Hashem, on est en train d'enregistrer cette affaire. Vous allez vous le repasser, Bedrat Hashem, vous allez acheter les disques, vous allez les prendre, vous faites ce que vous voulez avec, il n'y a pas de problème. Vous allez vous le repasser jusqu'à ce que vous le ressentiez profondément. Et tu relis la chose, tu la relis. Parce que malheureusement, on est tellement sous anesthésie que ce n'est pas une gifle qu'il faut qu'on se prenne. C'est plusieurs séries. Il faut qu'on se réveille, qu'on se réchauffe, qu'on se ravive la neshama qui est au fond de nous pour qu'elle puisse reprendre le dessus sur cet ennemi qui est venu nous dominer, Rabotai. Mais Bedrat Hashem, quand l'homme il fait cette chose-là, alors il a réussi à faire une tchouva. Cette tchouva, c'est la tchouva de Ben Adam Lamakom. À ce moment-là, il va rechercher Hashem. Il va revenir vers lui. Il va prier à Kadosh Baruch Hu, il va aller chez Moulad, il va faire des trilotes, maître de l'univers. Maintenant que j'ai reconnu la vérité, c'est pas le tout de reconnaître la vérité. Donne-moi la force de pouvoir épouser cette vérité, de pouvoir faire corps avec elle, de pouvoir l'intégrer, la vivre et faire en sorte qu'elle puisse, que je puisse maintenant me battre contre ce Yetzer qui va vouloir me refaire à la piqûre d'anesthésie, que je puisse être immunisé contre lui, que je puisse faire vivre ces paroles de Torah. Rabotai, c'est pas en venant une fois par 6 mois quand on se retrouve, je sais qu'on est content de se retrouver, qu'on passe un bon moment et tout ça, moi aussi je vous aime. Et je sais que si je vous aime, c'est que vous m'aimez aussi, parce que de la même façon que le visage, il se regarde dans l'eau, les cœurs, ils se regardent entre eux, nous dit Shlomo Ameler. Donc si moi je vous aime, c'est que vous m'aimez aussi. Et on est content de partager ces moments, parce que c'est des moments précieux, c'est des moments de vérité, c'est des moments où on a commencé à voir la lumière d'Hachem qui se dépose dans notre cœur et qui vient sonder les profondeurs de notre être, et qu'on est à la recherche de nous-mêmes, à l'instar de quelqu'un qui aurait retrouvé quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis si longtemps. Combien il est heureux de retrouver un être cher. Il est en train de se retrouver à lui. C'est sûr que tous, on est en train de vibrer, on est en train de trembler. Parce que la Torah, elle est en train de resplendir en nous. Mais si jamais une personne, elle ne réchauffe pas ce sentiment, elle ne le revit pas à chaque instant de sa vie, elle ne fait pas en sorte de faire en sorte de fixer des moments d'étude, de venir avec ses amis une fois ou deux fois par semaine, une fois par jour, il essaye de se prendre un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, chacun avec ses forces, chacun avec l'emploi du temps qu'il a. Dire voilà, il faut que je m'occupe de mon moi. Il dit, le gars, il arrive, quelques instants plus tard, etc., il attend à la sortie là-bas. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est la prévention des vaccins et tout ça. Il te met une piqûre d'anesthésie, tu ressors comme un amnésique. Tu as passé le plus beau moment de ta vie, et après tu retournes, tu as tout oublié. Tout est passé à travers. Tu arrives le jour de Kippour, tu ne sais même pas de quoi on te parle, tu ne comprends pas pourquoi tu es concerné par ça. Rabotai, c'est ça la tchouva. On prie à Kadosh Baruch Hu de nous permettre de faire en sorte qu'on va prendre la Torah sur nous, qu'on va l'étudier, qu'on va se rapprocher de cette Torah qui est le GPS, qui nous rapprochera de la lumière d'Hachem. Et après ça, ça ne suffit pas d'avoir la Torah, il faut aussi avoir les tfilotes. La personne, elle va commencer à prier de tout son cœur, de tout son être. Et par le mérite de ces tfilotes, comme c'est marqué, le Jitzara, c'est un ange, et nous sommes des hommes. Et c'est du feu, et nous sommes de la paille. Il peut nous éclater en un instant, on avait parlé de ça. D'ailleurs, le chiot de Londres, c'est le premier, parce que c'était le meilleur. Parce que vous êtes les meilleurs, alors vous avez le meilleur chiot. Et on avait parlé de la puissance du Yetzerara. Si c'était pas qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, nous dit la Gemara dans Kiddushin à la page 30, folio B, alors on pourrait pas l'emporter. C'est pour ça qu'il faut faire la Torah, il faut faire les mitzvot et prier Hachem qui nous protège et qui nous garde. Voilà pour le volet de la teshuva de Ben Adam Lamakom, de la teshuva par rapport à Kadosh Baruch Hu. L'homme, il doit faire justement ce bilan de conscience, il doit faire attention à lui, et à ce moment-là, il peut s'approcher d'Hachem. On va parler, Bezrat Hachem, maintenant, d'un volet très important, et je sais que ça vous tient beaucoup à cœur, c'est le volet de la teshuva de l'homme vis-à-vis de son prochain. Je nourris un peu le cheval aussi. Il faut bien, c'est obligé. Ce cheval, il sert à quelque chose, parce qu'il essaye de dire des bonnes choses, il faut l'amadouer un peu parfois. Écoutez bien, mon Rabbi Rabotai. On rapporte un jour une histoire très connue dans le Talmud, qui a eu un candidat à la conversion, et il est venu voir Hillel et Shammai. Il leur a dit, mes chers maîtres, je voudrais prendre sur moi une grande décision de ma vie, je voudrais me convertir au judaïsme. Mais ce Mahboul-là, il avait une condition assez atypique. On appelle la condition des chevaliers du zodiaque. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Il leur a dit, je voudrais que vous m'enseignez toute la Torah Kula sur un pied. Toute la Torah, je voudrais l'étudier, mais je voudrais que vous me l'enseignez sur un pied, à la manière du signe, comme ça. La mise en scène. Donc le gars, il a dit... Alors, Shammai, il est venu se présenter dans l'air. On rigole pas avec Shammai, sinon tu vas te chamailler avec lui. Ça vient de là, Shammai. Shammai avait un petit bâton qui traînait à côté de lui, il lui a donné un coup de bâton, il l'a renvoyé là-bas. Pourquoi ? Shammai, c'était l'homme de la rigueur. Il a voulu lui montrer, mon fils, si jamais tu veux étudier la Torah et tu veux faire les mitzvot, sache une chose, c'est qu'il faut du courage et qu'il faut être droit, il ne faut pas être hakoum, il ne faut pas être tordu. Il faut que tu sois rigoureux comme le bâton, il faut que tu sois fort comme le bâton et que tu te donnes des forces et que tu te donnes la peine de te battre pour pouvoir y arriver. Il est parti voir Hillel Azaken, le grand Hillel, qui était l'homme de la miséricorde. Et Hillel lui a répondu une chose. Il lui a dit quelque chose de surprenant. Il lui a dit, tu ne feras pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Et tout le reste n'est qu'une exégèse de cette phrase-là. Il était très étonné. Il a entendu cette phrase. En quoi cette phrase rabotaille de ne pas faire à autrui si jamais il y a quelque chose qu'on a une haine profonde, si jamais on nous le fait, on n'a pas le droit de le faire à son prochain. En quoi cette chose-là, elle reflète toute la Torah. C'est vrai que cette chose-là, elle reflète tous les commandements de l'homme par rapport à son prochain. Mais par rapport à Kadosh Baruch Hu, en quoi cette chose-là, elle reflète ces choses-là? Et une autre question que le Rav Steinman nous pose ici, il nous demande une chose très puissante. Il dit, pourquoi cette lui donner cette première chose? Il y a des commandements qui sont bien plus fondamentaux. Par exemple, le respect du Shabbat. C'est marqué que si quelqu'un ne respecte pas le Shabbat, Chas v'Shalom, il est considéré comme un homme des nations. Et Bezrat Hashem, Rabotai, moi d'habitude, j'ai pas l'habitude de tout ça, de faire des campagnes et tout ça, de Tshuva, je laisse chacun faire, mais Bezrat Hashem, on prend sur nous que Bezrat Hashem, ce Shabbat, c'est le Shabbat Tshuva. Si on fait Tshuva, comme il a dit Rabbi Mordechai tout à l'heure, Fima, si on fait Tshuva pendant ce Shabbat, c'est comme si on avait fait tous les Shabbats de l'année. Et à partir de ce Shabbat, non seulement on fait Tshuva sur les Shabbatats qui sont passés, mais on prend sur nous que tous les Shabbats, on va les garder, parce que le Shabbat, c'est lui qui nous garde. Plus que nous, on garde le Shabbat, c'est le Shabbat qui nous garde, Rabotai. Il garde notre famille, il garde l'unité au sein de notre couple, l'unité au sein de nos foyers, l'unité au sein des enfants. Vous voyez le Shabbat dans des gens qui ne sont pas religieux, les pauvres. Là, Mahboul, là-bas, il est en train de regarder la finale de la Coupe du Monde. L'autre, il est en train de regarder les feux de l'amour. L'autre, il est en train de faire le MSN Messenger. L'autre, Feuille Joueur. C'est ça la liberté. Rabotai, chacun fait ce qu'il veut. Un dans chaque cellule. C'est des prisonniers, chacun là-bas. Alors que le Shabbat, quand on respecte le Shabbat, Rabotai, tout le monde est ensemble, en train de célébrer l'anniversaire de la création du monde. Qu'Hachem, il a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e. Il dit, normalement, on aurait dû nous parler du Shabbat. Shabbat, il est bien plus important. Quelqu'un qui ne fait pas le Shabbat, nos textes, ils sont sévères. Il le qualifie de personne qui est comme les Umat Haolam. Le vin qu'il touche, c'est un Yain Nesser. C'est un vin qui devient impropre à la consommation. On n'a pas le droit de boire le vin qui a été touché par quelqu'un qui ne respecte pas le Shabbat. Et il est considéré qu'il ouvre des Avodah Zara, comme s'il transgressait toute la Torah et comme s'il était idolâtre. Donc pourquoi ce Hillel Azaken, qui était une grande lumière d'Israël, il ne lui a pas dit, il est venu l'autre, il a dit, enseigne-moi la Torah sur un pied, il lui a dit, ben, tu dois respecter le Shabbat, et après il lui enseigne le reste. Et on sait aussi que donc c'est bizarre, voilà la première question. Il y a des sanctions qui sont très graves en plus, aussi bien dans ce monde que dans le monde futur. Celui qui fait le Shabbat, il est passible d'une peine de mort infligée par la main du Beddin, par la main du tribunal rabbinique, le Sanhedrin. Donc comment ça se fait qu'on est en train de lui parler de quelque chose qui est Ben Adam la Chavero, alors que ce Ben Adam la Chavero, il est sanctionné avec beaucoup moins de vigueur par la Torah. Oui, tout ce qui est de notre relation par rapport au prochain, la Torah ne le sanctionne pas avec autant de vigueur. Donc comment ça se fait qu'il lui a dit des choses sur Shabbat, au lieu de lui dire des choses qui sont beaucoup plus essentielles? La réponse à cette question, c'est le Rosh, Tosfot Rosh, un grand commentateur de la Torah qui nous ramène, et il dit quelque chose de surprenant et de merveilleux. Il nous explique que, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, les commandements de l'homme vis-à-vis du prochain, ils passent avant les commandements de l'homme vis-à-vis d'Hachem. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il serait prêt à la limite, si jamais on avait le choix, à renoncer à son honneur à lui, pour ne pas qu'on touche l'honneur d'un de ses enfants. Comme c'est marqué dans le Talmud, celui qui donne une gifle à un Ben Israël, c'est comme s'il avait donné une gifle à la Shrina. Pourquoi? Parce que chacun on est considéré comme les enfants choyés, et les fils uniques d'Hachem Yidbarah. Donc à partir du moment où l'homme il comprend cette chose-là, il sait que c'est pour ça peut-être que Hillel est venu lui dire, tu sais qu'est-ce que la chose la plus importante, la pierre angulaire de toute la Torah, tu ne feras pas autrui ce que tu ne voudras pas qu'on te fie. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant d'Akadosh Baruch Hu, tu dois le préserver et tu dois le protéger. C'est la clé donc de la Avodat Hashem, la clé du service divin, elle passe par ces commandements-là. Comme on voit dans le traité PA, dans le Talmud de Jérusalem, on voit là-bas, il y a une chose qu'on récite tous les matins. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Elou dvarim shen laim, shiur apea vabekurim varayon, miut rasadim ve talmud Torah. On nous dit, voici les choses dont vous mangerez le fruit dans ce monde et dont le capital est réservé dans le monde futur. Ça veut dire qu'ici, tu manges juste quelques petits dividendes, mais dans le monde futur, tout le capital de cette grande mitzvah que tu as fait était réservé là-bas. Et tous les mitzvot qui sont cités là-bas, on ne parle que de mitzvot qui sont ben Adam la Chaveru. On nous parle par exemple là-bas dans cette Mishnah de Achnasat Kala. Et d'ailleurs, je profite pour vous dire, Achnasat Kala, c'est quoi? C'est ramasser de l'argent pour permettre à une Kala qui n'a pas les moyens de se marier. Et le Shulchan Aruch nous dit qu'un homme doit être prêt à vendre un Sefer Torah pour marier sa fille. Tellement c'est précieux et tellement c'est important de pouvoir marier une fille. Et Baruch HaShem, je profite du moment qu'on est réunis et tout ça pour vous dire que parmi les actions des quelques gouttes de lumière pour l'éternité et du monde meilleur que nous sommes tous des membres ici, parce que je sais que vous êtes des grands associés à moi, Baruch HaShem, on soutient en ce moment quelqu'un qui est en train de se marier, la fille d'un grand Talmid Chacham de Bnei Brak et tout ça. Donc celui qui veut participer justement dans le cadre de toutes nos actions, il pourra le faire Bezrat HaShem par la suite. Donc on voit ça, c'est une mitzvah de Ben Adam Lachavero, également la Levaya. La Levaya, c'est quoi, Moray Berabotay? La Levaya, c'est le fait d'accompagner un mort à sa dernière demeure. C'est une très grande mitzvah de la Torah, parce qu'on vient, comme si on attestait de l'intégrité de cette personne devant Akadosh Baruch Hu, il va avoir un jugement de miséricorde. Akadosh Baruch Hu, il va être plus miséricordieux, parce qu'il voit, voilà, il est entouré par une famille, par des gens qu'il estimait, et on dit que le Hesped, ça sert à quoi de faire un Hesped? Une oraison funèbre. Cette oraison funèbre, elle sert à quoi? Cet éloge funèbre qu'on fait à ce défunt. Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas. Il sait beaucoup mieux que nous que ce que cette personne en a été. Qu'est-ce que toi tu vas commencer à dire à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce que cette personne en a été? Et là, Rabotai, cette chose-là, en fait, cette oraison funèbre, elle vient pour pouvoir dire à Kadosh Baruch Hu ce qu'il veut entendre. Qu'est-ce que mes enfants, ils pensent de mes enfants? Moi, je sais ce que je pense d'eux. Mais qu'est-ce que les enfants, ils ont pensé des enfants? Parce que le regard qu'on nous porte, le regard qu'un frère, il a sur nous, il est tellement fondamental, il est tellement important qu'à Kadosh Baruch Hu, il veut entendre cette chose-là. Comment on considérait cette personne? Quel était son rôle dans ce monde? Est-ce qu'elle était appréciée des gens qui étaient autour d'elle? Mais en fonction de ça, la personne, elle va avoir des grands mérites. Donc la Levaya aussi. Et la seule mitzvah que dans cette Mishnah, c'est cité que c'est Ben Adam Lamakom, par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est la relation par rapport à Hachem. Talmud Torah Kenegad Kulam. La Torah vaut toutes les mitzvot. Pourquoi? Peut-être on peut dire aussi dans le droit fil de ce qu'on est en train de dire, que la Torah, elle nous permet d'accomplir toutes les mitzvot par rapport à son prochain. Parce que si jamais on n'est pas la Torah, on ne peut pas accomplir les mitzvot par rapport à son prochain. Et Bezrat Hashem, c'est ce que je vais vous démontrer dans un second temps, Bezrat Hashem. Donc on a compris pourquoi la réponse à cette question incroyable. On se dit pourquoi il est venu, il lui a dit, tu ne feras pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, et tout le reste c'est qu'une exégèse de ça. Mais qu'est-ce que tu parles? Dis-lui le Shabbat? Non. Alors Dieu d'Hashem, les choses qui sont par rapport à son prochain, ils passent avant ceux qui passent par rapport à Hashem. Akadosh Baruch Hu, il est prêt à annuler son kavod pour le kavod de ses enfants. On raconte une histoire sur Rabbi Pinchas Ben Yair. Rabbi Pinchas Ben Yair, c'était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai Alav Shalom, le fondateur de la Kabbalah. C'est lui qui a écrit la Kabbalah, le Zohar. On raconte dans la Gemara dans Chulin à la page 7, folio A, et dans Demaï au chapitre 1er, verset 3. Celui qui veut aller s'y reporter, tout ça, on peut aller ensemble après, je vous montrerai là-bas le texte d'extenso et la lecture et tout ça. Là-bas, la Gemara, elle explique quelque chose de magnifique qui s'est passé une fois avec Rabbi Pinchas Ben Yair. Rabbi Pinchas Ben Yair était en chemin pour aller accomplir la mitzvah de Pidyon Shvuim. Pidyon Shvuim, c'est le fait de libérer un prisonnier qui a été pris là-bas en captivité. Et Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il libère les prisonniers d'Israël et du peuple d'Israël, Gilad Shalit et tous les gens qui sont en captivité, Bezrat Hashem, par le mérite de cette histoire, qu'ils puissent les libérer. Donc, Rabbi Pinchas Ben Yair était en train de traverser, quand tout à coup, il a eu un petit embouteillage, c'était un fleuve qui était venu se loger devant lui, et il n'avait pas la faculté de passer ce fleuve. Alors il a commencé à rentrer en conversation avec ce fleuve. Vous devez vous dire, c'est un peu bizarre. Shlomo Améler, il savait parler avec les animaux, il savait parler avec les arbres, il savait parler avec toutes les choses. Les Chachamim de la Gemara, il était tellement rouhani, il était tellement spirituel qu'il était capable de voir l'âme qu'il y avait en chaque chose. Et alors il commence à rentrer en discussion avec ce fleuve. Il lui dit, mon fleuve et tout ça, tu es bien aimable et tout, mais je vais te demander de me faire une petite révérence. Ouvre-toi pour que je puisse aller libérer notre frère qui est retenu là-bas à Betsar. À ce moment-là, le fleuve, il lui dit non. Il dit, comment tu me dis non et tout ça? Il dit, pourquoi? Il dit, parce que moi, je fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu de façon certaine. Mais toi, peut-être que tu vas le libérer, peut-être que tu ne vas pas le libérer. Qui me dit que tu vas aller faire cette chose-là? Avec Pinchas Ben Yair, il lui a dit, écoute, mon ami, soit tu me laisses passer maintenant, soit je t'assèche pour l'éternité. À ce moment-là, quand le fleuve il a entendu ça, tout de suite, il est parti, et Rabbi Pinchas Ben Yair, il est passé. La Gemara dans le Yerushalmi, elle pose une question, là-bas, les Talmidim, ils ont vu ça, ils ont vu les élèves, ils ont dit, Ribono Shalolam, comment notre maître, il est capable de faire une telle chose? Alors ils sont venus, les Talmidim, ils ont demandé, maître, est-ce que si jamais nous, on se retrouve dans la même position que toi, et qu'on se retrouve là-bas face au chute du Niagara et tout ça, on peut lui dire une parole et on peut l'ouvrir pour pouvoir passer et s'infiltrer à l'intérieur? à la manière de Narsan Ben Ami Nadav, qu'il était passé là-bas et qu'il avait ouvert la mer Rouge. Comment c'est possible? Est-ce qu'on est capable de faire une chasse? Regardez ce qu'il a répondu Rabbi Pinchas Ben Yair Rabotai. Rabbi Pinchas Ben Yair, il n'aura pas dit, si jamais dans votre vie vous n'avez jamais transgressé le Shabbat, si jamais dans votre vie vous n'avez jamais mangé un animal inapte à la consommation, alors vous pourrez passer. Il aura dit, si jamais dans toute votre vie, vous avez le souvenir de ne jamais avoir blessé un de vos frères d'Israël, vous l'avez jamais blessé, vous l'avez jamais vexé, alors vous aurez la faculté d'ouvrir cette mer et de passer de façon miraculeuse dans ses eaux. Rabotai, on voit d'ici la puissance incroyable du respect qu'on a par rapport à notre frère et cette relation privilégiée qu'on a avec l'autre. Si jamais elle est restée pure, on est capable de faire des miracles extraordinaires. Et on voit que les répercussions de ces commandements, ils sont beaucoup plus puissants encore que ceux qui sont faits par la volonté de respecter la volonté d'Hachem par rapport à lui simplement. C'est incroyable. Il lui a pas dit, est-ce que tu respectes le Shabbat, est-ce que tu fais la Torah, tu fais les mitzvot, est-ce que tu fais tu manges kasher et tout ça. Ça, c'était sûr qu'il faisait ça. Mais sur quoi on te teste? Sur quoi tu es capable d'ouvrir? Sur le fait que tu as blessé ton frère ou que tu n'as pas blessé ton frère. Ceci étant, il y a une grande question qui se pose. On doit se demander, comment ça se fait que la sanction elle est moins sévère? Si jamais on dit que ces commandements-là, de Ben Adam la Chavero, de l'homme par rapport à son prochain et de la femme par rapport à sa prochaine, et par rapport à son prochain aussi avec son mari, avec ses enfants, elles sont plus graves aux yeux d'Hachem, comment ça se fait que la sanction qui en découle, elle est moins importante? Normalement, si jamais un commandement il est très important, alors la sanction qui s'y applique, elle devrait être très importante. Et pourtant, on voit l'inverse. On voit que les commandements qui nous relient par rapport à Hachem, alors là, il y a des sanctions, d'une mort que tu ne bouges pas, tu te prends des tannées, tout ça. Si tu ne respectes pas Shabbat, c'est des peines très graves. Si tu ne manges pas à kasher, on te donne des coups avec des coups et tout ça. Si jamais, Chas v'Shalom, tu manges de la graisse interdite, ou tu as des relations interdites, ou tout ça, dans certaines relations interdites, bekaret, ça veut dire qu'il y a un retranchement de la neshama. Pourtant, dans tous les commandements, Ben Adam la Chavero, si jamais le gars il n'a pas aimé son prochain comme lui-même, on ne va pas lui donner des coups, on ne va pas lui donner des corrections et tout ça. Il n'a pas de peine de mort et tout ça, il n'est pas sujet à tout ça. Donc comment c'est possible? C'est bizarre. Voilà la question qui se pose ici. La réponse, mes chers amis, elle est très simple. On doit répondre avec ça en sachant qu'Akadosh Baruch Hu, il a un principe qui prévaut. J'ai encore un autre verset. Akadosh Baruch Hu, le principe qui prévaut pour nous, pour le cheval. C'est une écurie formule. Le principe qui prévaut, mes chers amis, c'est le principe de miséricorde. Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux. Et Hachem, il sait une chose. Il sait que les commandements qui sont difficiles pour nous de respecter, alors Akadosh Baruch Hu, il est moins sévère avec nous. Mais les commandements qui sont faciles à respecter, alors Akadosh Baruch Hu, il est plus sévère avec nous. Et la Gemara, elle le dit dans la Maaseret Rouin, dans la page 89, si je ne m'abuse, j'ai pas vu la référence depuis quelque temps. La Gemara, elle dit là-bas, « Caché oncho shel lavan, mi oncho shel techelet. » Il est plus grave la sanction qui est infligée à quelqu'un qui ne respecte pas le tzitzit blanc du talit que celui qui ne respecte pas le tzitzit bleu du talit. Vous savez qu'avant, il y avait le talit, il y avait des fils blancs et des fils bleus azur. Petite terrelette. Le fil blanc, c'est, tu vas prendre la première chèvre du quartier là-bas, tu vas la tondre, tu vas lui faire là-bas une petite, tu vas lui faire là-bas la nuque longue et tout ça. Moi aussi, je me suis fait la nuque avant de venir ça pour être présentable devant vous et tout. Et la barbichette aussi, ça fait plaisir. Donc il est venu et tout ça. Il lui fait le brossage du poil et il fait le tzitzit avec facilement. Par contre, Rabotai, le tzitzit bleu azur. La sanction, elle est moins grave. Pourquoi? Parce que ce bleu azur, il venait d'un poisson qui s'appelle le chilazon. Et ce chilazon, toutes les 70 ans, il venait là-bas à la surface des eaux et tu pouvais l'attraper avec ce sang, tu pouvais faire ce tzitzit. C'était très difficile d'attraper ce poisson-là. Akadosh Baruch Hu, avec qui il va être plus marmir? Avec qui il va être plus rigoureux et plus regardant? Avec celui qui n'a pas respecté ce fil bleu ou avec celui qui n'a pas regardé ce fil blanc? Bien sûr, avec celui qui n'a pas regardé le fil blanc. Machalé Madavardomé, à quoi ça ressemble, nous dit le Talmud sur place, une allégorie? Un petit machal, une petite parabole, une petite hyperbole, et oui. C'est pour vous faire rigoler un peu parce qu'après vous perdez la concentration sinon. Alors regardez à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un roi qui avait des sujets. Ces sujets-là, c'était des braves gens. Il leur a dit, vous, mes deux, vous allez me faire un sceau royal avec lequel je vais fermer les enveloppes. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas le courrier internet et tout ça. Ils avaient besoin de faire partir des messages et tout ça avec le cheval aussi. Ils partaient tous ensemble. Donc aujourd'hui, nous, on est devenus des chevaux et on est sur internet et tout ça. Bref, c'est pas grave. Regardez, alors il leur a dit, toi, tu vas me faire le sceau en terre glaise. pas en terre anglaise, en terre glaise, c'est pas loin mais c'est à côté, ça veut dire de l'argile. Et toi tu vas me faire le seau avec de l'or 24 carats. Je sais pas si ça existe, mais en tout cas, je vous dis. Si jamais il y a des femmes qui peuvent nous renseigner après, on sera preneur de tout conseil dans ce domaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les deux, ils ont malheureusement pas pu faire le saut royal. Qui c'est qui va être plus sanctionné? Bien sûr, celui qui a pas fait le chose en terre glaise, il pouvait aller dans n'importe quelle campagne là-bas, la forêt de Boucone ou la cambrouse profonde et tout ça. Il va chercher là-bas de la boue, il renverse un peu d'eau et tout ça, et il aurait fait ce saut, il aurait fait facilement. Mais l'autre, il est beaucoup moins répréhensible, il va prendre une tannée beaucoup moins grande. Pourquoi? Parce qu'il devait aller chercher cet or, c'était très difficile pour lui de le trouver. Donc de la même façon, mes chers amis, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'est pas marmir alors que ce commandement, il est si grave par rapport à son prochain de le blesser ou par rapport à son prochain d'avoir une mauvaise anaga par rapport à lui? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il est tolérant par rapport à ça? Parce qu'il est beaucoup plus difficile de respecter les commandements de l'homme vis-à-vis de son prochain que de respecter les commandements de l'homme vis-à-vis d'Hachem. Rabotai, les commandements de l'homme vis-à-vis d'Hachem, c'est une décision à prendre. C'est qu'une personne, un beau jour, elle est allée à la recherche d'elle-même dans la nuit. Elle a allumé cette bougie. Elle a voulu voir la vérité en face et la réalité. Elle s'est mise en face de la vérité. Elle s'est mise en face de la réalité. Et elle a commencé à rechercher le Emet. Elle s'est trouvée confrontée à la vérité. Elle s'est dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, je prends sur moi de vivre dans la vérité. Toute ma vie, je ne connaissais pas cette vérité ou je l'ignorais. Aujourd'hui, je prends mes responsabilités. Et à partir d'aujourd'hui, je vivrai en paix et en adéquation et en harmonie avec la volonté d'Hachem. La personne, elle a pris cette décision, elle a coupé court avec le Yetzera, elle décide de respecter Shabbat, elle décide de faire la cache-route, elle décide d'aller à la Tfila. Ça y est, c'est fini. C'est une décision pour toute la vie, et c'est pas quelque chose que l'homme il devra s'investir et s'engager jusqu'à la fin de ses jours. C'est un kinyan que l'homme il a fait, c'est une décision intellectuelle qu'il a pris de prendre sur lui le joug de la royauté céleste. Il a dit, moi je suis le serviteur d'Hachem, à partir d'aujourd'hui je le fais. Par contre, mes chers frères, les relations de l'homme vis-à-vis de son prochain, c'est un combat jusqu'à la fin. C'est un combat jusqu'au dernier jour, de lutter contre l'orgueil, de lutter contre la rancœur, de lutter contre toutes les mauvaises passions et les mauvaises pulsions qu'il y a en homme, de lutter contre la jalousie. C'est quelque chose que l'homme il doit se travailler jusqu'au dernier moment. Et puisqu'il doit se travailler jusqu'au dernier moment, alors Kadosh Baruch Hu, il est Melachem avec lui. Il va faire attention, il va être miséricordieux parce qu'il sait que le Yetzer Hara il est beaucoup plus puissant dans ce domaine. C'est pour ça qu'il va faire attention. On voit le premier crime de l'histoire de l'humanité. La paracha dans Bereshit, le Chumash Bereshit qu'on va Bezrat Hashem commencer à lire dans quelques semaines, Bezrat Hashem, quelques jours même, il rapporte le premier crime de l'histoire de l'humanité, le meurtre de Caïn de son frère Abel. Pourquoi il a tué son frère, Rabotai? Quand on regarde avec des yeux profanes et qu'on regarde sans approfondir la chose et sans regarder avec une analyse bien minutieuse, on a l'impression que c'est des problèmes relatifs à la spiritualité. C'est des problèmes qui sont relatifs au commandement de l'homme vis-à-vis de son créateur. Pourquoi? Parce que Caïn, il a offert un korban à Hachem. Il a amené un sacrifice. Et Abel aussi, il a amené un sacrifice. Caïn, son sacrifice n'a pas été accepté. Et Abel, son sacrifice, il a été accepté. Alors qu'est-ce qui s'est fait? Caïn, il a été énervé qu'Akadosh Baruch Hu, il a agressé le korban de son frère. Il a pris, il a tué et ça y est, on n'en parle plus. A priori, cette problématique, c'est qu'est-ce qui est kasher comme korban? On sait que quel était le problème en fait. Le problème c'est que Caïn il a apporté un corban qui était très bon marché. Il a amené du lin ou du chanvre. Je ne sais pas si c'était du lin ou du chanvre. Mais pour vous on peut dire que c'est du chanvre pour vous dire que regardez ce que le chanvre il amène dans le monde. Celui qui se met trop de chanvre doux et tout ça, vous m'avez compris, un peu de drogue douce et tout ça, il peut finir là-bas à tuer son frère. Parce qu'après il va commencer à oublier ce qui se passe dans le monde. Il va commencer à sa tête, elle va se déconnecter. Au lieu de vivre dans la réalité, tu vis dans un univers parallèle qui est en train de t'enfuir. Alors regarde la vérité et vis avec le Emet au lieu de vivre avec les drogues douces et tout ça. Il a amené du chanvre ou il a amené peut-être du lin. En tout cas, c'était très bon marché. À Kadosh Baruch Hu, il a dit, puisque cet enfant-là, il n'a pas fait le nécessaire pour pouvoir se dépasser et aller au-delà de la volonté de rester attaché, de rester en proximité avec ses biens, alors je n'accepterai pas son corban. Par contre, Abel, il s'est battu contre lui-même et il a amené le meilleur sacrifice qu'il avait. La meilleure chose qu'il avait, il a apporté à Kadosh Baruch Hu. Alors là, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, ben, je vois que cet enfant, il s'est dépassé. Mais Ribono Shalolam, Caïn, qu'est-ce qu'il lui a pris? Caïn, c'était le propriétaire de la moitié de l'humanité, de la moitié du monde. Qu'est-ce que ça te fait maintenant d'apporter de la plus grande richesse de ce que tu as? Tu as le monde entier qui est dans ta main. Tu as des choses extraordinaires. Qu'est-ce que tu as vers toi avec cette petite chose? Tu vas venir avec cette petite chose, bon marché, qu'est-ce que tu es en train de faire? Amène ça! Et là, Rabotai, on voit que la nature humaine, elle est mauvaise. L'homme, il est bon et la Torah le rend meilleur. C'est pas comme ce marboule de Jean-Jacques Rousseau qui dit l'homme il est bon et c'est la société qui le pervertit. Non, dit le contraire. L'homme il est avec une tendance au mal et c'est la Torah qui le libère de l'obscurité. La Torah de lumière qui rentre en lui, elle va le faire devenir une personne bonne. Mais la Torah, elle vient nous dire, et le Rav Steinman nous explique ici, dans le comportement de Caïn, que ce Caïn là, il était attaché à ses biens. Elle nous montre que la nature humaine, c'est de la jalousie. La nature humaine, c'est des choses qui sont négatives. La nature humaine, c'est de rester proche de ses biens. Et l'homme doit se dépasser pour se séparer de cette matérialité. L'homme doit se dépasser pour pouvoir donner à son prochain. Et il doit savoir, cet homme-là, pour se motiver, que la seule chose qui lui appartient, c'est la chose qu'il a donnée. C'est la chose qui lui appartiendra pour l'éternité. Tout ce que tu as pris pour toi dans ce monde, tu le laisseras ici. Mais tout ce que tu as donné, tu le vivras dans l'éternité, dans le ciel. Tu pourras vivre avec éternellement. Et Caïn, malheureusement, n'a pas fait cette chose-là. Il a eu de la jalousie contre son frère. Et c'est en fait les mauvaises midotes qu'il avait qui l'ont conduit à sa perte. Et comme il n'a pas réussi à se dépasser, alors que son frère avait réussi à se dépasser, il a été jaloux, il a tué son frère. Donc on voit ici qu'est-ce que l'épreuve la plus redoutable qui soit dans ce monde, c'est justement cette lutte contre la kina, contre la jalousie. Quelqu'un, je disais là-bas, je parlais un peu avec les écoliers là-bas de l'école cette semaine et tout ça, je leur disais, imaginez, vous vous rappelez quand on était à l'école et tout, imagine toi t'es le meilleur de la classe et tout, et une fois, Jean-Louis là-bas, le gars avec la culotte courte là-bas et les comment ça s'appelle, les Burlington remontés et avec le polo et ça Ralph Lauren, tu sais, ou je sais pas, petit bateau peut-être, je sais pas, parce que Ralph Lauren c'est pour nous. Et je vous ai dit que c'était le cheval tout à l'heure, alors il faut qu'on reste dans le champ lexical du cheval. Donc vous avez compris, le gars il arrive avec son polo et il a eu une de 10 points de plus que toi. Toi t'as eu 16 et lui il a eu 16,5. Ton 16 il vaut rien. Si jamais toi t'avais eu 16 et que lui il avait eu 15,5, t'aurais été le plus heureux des hommes. Mais maintenant que lui il a eu un demi-point de plus que toi, t'as plus de vie, t'as plus d'existence. De la même façon, celui-là il a acheté la Porsche Ferrari et tout ça, l'autre il a acheté une Porsche Ferrari qui vient de sortir un mois avant, l'autre il a plus de Porsche Ferrari. Ça y est c'est fini, il n'y a plus de Porsche Ferrari, ma Porsche Ferrari elle n'existe pas. Comme j'avais entendu une fois du Rap Pinto, il y avait un gars, il avait construit un immeuble, et l'autre, là-bas, il a voulu lui faire la concurrence, il a fait un immeuble de plus. Ce Mahboul, il est rentré en face, il lui a dit, combien il coûte ton immeuble, je suis capable de l'acheter, tout ça. Le gars, il est venu, il lui a dit, non, mais moi je ne le vends pas, ça, je lui dis, si vous ne le vendez pas, c'est une question de vie ou de mort, c'est puis quoi en éveil, vous devez le vendre. L'autre, il lui a dit, bon, écoute, je vous le vends, il n'y a pas de problème, et tout ça. Il a acheté, il a détruit, il a mis une bombe, il a détruit tout l'immeuble. Il a détruit l'immeuble, comme ça, lui, son immeuble, il restait seul, et l'autre, il ne pouvait pas. À partir du moment où tu vois que l'autre il a quelque chose que toi t'as pas, hein, alors tu rentres dans cette problématique de la avoda de Ben Adam Lachavero, de ne pas convoiter le bien de ton prochain, de l'aimer, de ne pas lui tenir rigueur de ce qu'il te fait, et tu as une haine qui est profonde en toi. Akadosh Baruch Hu, il sait que c'est une avoda qui est très très difficile, c'est un combat qui est très redoutable, et c'est pour ça que tu dois te battre jusqu'à la fin de ta vie pour ça. Alors Akadosh Baruch Hu, même si c'est la chose qui est la plus importante, Akadosh Baruch Hu, il est plus mekil avec toi, il fait moins attention, il est moins regardant. Et c'est la raison pour laquelle Hillel, il a répondu à cet homme-là comme ça. Il lui a dit, Hillel, enseigne-moi, je répète pour mon frère grec qui nous a rejoint, que j'aime, je suis tellement content de te voir, si tu savais, tu m'as réchauffé le cœur d'être là, Baruch HaShem. Tu vas voir les affaires, tu m'appelleras dans quelques semaines, tu me diras ce qui se passe. Il est venu malgré le fait que le Yetzer Hara, il a voulu l'empêcher de venir, il est venu malgré tout, parce qu'il y avait des grosses affaires et tout ça. Rabotai, il n'y a pas une affaire qui vaut la Torah. Il n'y a pas une affaire qui vaut le sirop de ce soir, Rabotai. C'est des milliards pour l'éternité. L'autre, il va te donner quelques pièces, tu peux les perdre et les gagner. Tu sais que les fluctuations là-bas, Wall Street et tout ça, elles sont pas très très fortes en ce moment, tu peux du jour au l'autre et tout ça. Par contre, la seule valeur qui est toujours en hausse, c'est la Torah de chat, comme on l'a dit. Donc chaque fois que vous avez un conflit et tout ça, dites au Yetzer Hara, vous lui faites vous la piqûre, vous lui faites dormir et vous venez au sirop de Torah. Regardez, il est la Zaken quand se convertit à un candidat à la conversion, il est venu un jour lui demander, je voudrais en prendre toute la Torah mais sur un pied. Est-ce que tu peux m'enseigner la Torah? Il est la Zaken, il lui a répondu quoi? Il lui a répondu, tu ne feras pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fie. On n'a pas compris cette chose-là. Pourquoi il a dit ça? À la lumière de cette analyse, mes chers amis, on comprend. Il a dit, si toi, mon cher ami, tu es capable de faire les choses qui sont très difficiles, alors tu seras capable de faire les choses qui sont faciles, parce que qui peut le plus peut le moins. Si toi tu es capable de te dépasser dans le domaine du Ben Adam Lachavero, de la relation à toi vis-à-vis de ton prochain, de faire attention à ne pas le blesser, de faire attention à l'aimer, de faire attention à l'honorer, de faire attention à lui donner une place dans la génération dans laquelle on existe par l'inexistence de l'autre, on existe par la dénégation et par le fait de déchirer les autres. Comment on s'impose dans ce monde en écrasant les autres? On le voit dans la politique, on le voit dans la presse, on le voit dans la presse à scandale, toutes ces choses-là du Lashon Hara que les gens ils font du matin au soir, ils veulent écraser les autres et ils existent par le fait de détruire les autres. Nous on existe par la construction, on laisse la place à l'autre, on le laisse exister, on s'annule pour le faire exister. Ça c'est quelque chose qui est difficile et il lui a dit mon fils, À partir du moment où toi tu es capable de prendre sur toi, d'aimer ton prochain comme toi-même, de ne pas faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, alors les commandements de la Torah par rapport à Kadosh Baruch Hu, tu seras capable de le faire. Si tu es capable de faire les choses qui sont difficiles, à plus forte raison, tu seras capable de faire les choses qui sont faciles. À la lumière de cette analyse, mes chers amis, et c'est là que je vous attendais au tournant, je savais que vous alliez venir, mais normalement là je vois qu'il y en a quelques-uns qui se sont endormis. Non, je rigole. Je peux voir facilement si les gens ils s'endorment. Ils ont la goutte comme Krillin. Je ne sais pas si vous avez vu dans Dragon Ball Krillin quand il a la goutte là, quand c'est ça. Quand les gars ils en ont marre et tout ça, ils ont la goutte comme Krillin ici et tout ça. Je vois qu'il n'y a personne qui a cette goutte, donc je vais vous dire un peu la continuité de ce chiot. Écoutez bien ça, mes chers amis. Krillin et Chauve, c'est celui qui avait les grandes beautés ici là. Je sais pas, parce qu'il y en a qui ont peut-être oublié Krillin, c'est pas un crime. Alors écoutez bien. À la lumière de cette analyse, il y a les juifs du cœur, comme on les appelle, ils peuvent chanter la Marseillaise. Ils peuvent être heureux et se dire c'est une grande revanche que nous prenons aujourd'hui sur le judaïsme orthodoxe et sur tous ces margoulim là-bas, ces obscurantistes avec leur shtreimel et leur piotte. Vous vous rappelez quand j'ai mis le shtreimel l'année dernière? Je ne vous l'ai pas pris cette fois parce qu'il faut être sérieux pendant ces 10 jours et tout, même si on rigole un peu, il faut être sérieux. Mais Bezrat Hashem, à Pessah, quand je viens, je reprends le shtreimel pour vous. Il dit c'est une grande revanche qu'on prend contre ces gens-là. Il nous disait toujours ah, mais les commandements de l'homme vis-à-vis de son prochain, c'est pas le plus important. C'est des commandements que tous les peuples des nations ils doivent faire. C'est quelque chose qui ne définit pas le juif, c'est quelque chose qui définit l'homme en tant que tel. C'est pas une ma'ala. Ce qui définit le juif, c'est les commandements de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est une grande revanche qu'on prend ici. Parce que maintenant, voilà, dans tout ce chiur, on vient de dire que les commandements de l'homme vis-à-vis de son prochain sont plus importants que les commandements de l'homme vis-à-vis d'Hachem. Donc à quoi ils servent tous ces commandements de l'homme vis-à-vis d'Hachem? Ça ne sert à rien. Et qu'est-ce qu'on nous dit à chaque fois? Oui, il faut respecter la Torah, il faut faire les mitzvot, ça sert à rien si jamais vous ne respectez pas le Shabbat et tout ça, c'est pas bien ce que vous faites et tout. Toujours on est en train de nous faire du bourrage de crâne pour nous dire de faire la Torah, pour nous dire de faire les mitzvot. Alors vous avez juste une petite parenthèse que j'ouvre et que je vais refermer instantanément. Ça c'est juste une chose, le bourrage de crâne ça n'existe pas. Et les gens quand ils viennent, moi je vous assure que je suis esquinté, je viens de parler peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'heures cette semaine, j'ai arpenté plein d'endroits. En plus, il n'y a pas que des gens gentils comme vous, il y a des bombardiers aussi. Des enfants et tout ça, il faut les tenir, ils s'excitent d'un côté de l'autre, il faut mettre des gifles, des coups, il faut les canaliser, tout ça. Je suis éclaté. Moi je viens pas pour faire du bourrage de crâne, je viens parce que je vous aime et que vous êtes ma famille et que je sais que j'ai découvert le trésor le joyau le plus précieux, la plus lumineux du monde et je veux vous le faire partager parce que ça a changé mon existence, je veux que ça change la vôtre. Et je vous dis, le meilleur business du monde c'est la Torah, il n'y a pas. Tu crois que toi tu es en train de faire une Tova Hashem, de faire le Shabbat, de faire la Torah, de faire les mitzvot, de faire le Shabbat. C'est toi le plus grand businessman du monde. À Kadosh Baruch Hu, quand toi tu fais la Torah, il te l'a donné parce qu'il veut te donner le guide et le mode d'emploi pour bien vivre et pour être heureux. Mais si jamais tu prends pas ce mode d'emploi, Hachem il est triste, pourquoi il te punit? De la même façon qu'un père il punit son fils pour pouvoir le remettre sur le bon chemin, que ce fils il puisse faire sa vie et qu'il puisse réussir, de la même façon Hachem il te punit kaviyachol pour que tu puisses prendre conscience que sans la Torah tu n'auras pas de joie. Parce que cette vie-là elle est qu'éphémère et toi tu dois te préparer à l'éternité. Donc Hachem il t'aime, c'est son enfant précieux. Et de la même façon que c'est dur pour un père d'éprouver son enfant à Kadosh Baruch Hu, il nous éprouve pour nous ramener sur le chemin de la vertu, pour qu'on ne puisse pas perdre de vue cet arbre de vie qui est la Torah, et qu'on puisse s'y attacher dans l'ouragan du monde dans lequel nous vivons. Il y a des ouragans, il y a des tempêtes terribles. Le seul qui peut rester attaché, celui qui s'attrape à cet arbre, dans cette tornade, et dans cet ouragan du monde dans lequel nous vivons, c'est le seul qui pourra vivre. Il faut s'attacher à cet arbre de vie qui est la Torah, Rabotai. C'est la seule chose. En tout cas, c'est une grande revanche qu'on a prise ce soir. On se dit, ben voilà, les commandements de l'homme vis-à-vis de son prochain, c'est merveilleux, c'est ça qui est important. Tout le reste n'est pas important. Le Rav Steinman répond à cette question. Il dit il ramène une histoire dans la paracha, dans Bereshit. Vous savez qu'à un moment, Avraham Avinu, il est arrivé à Guérar, il est arrivé avec sa femme dans un pays. C'était le pays de Avimelech. Et là-bas, dans ce pays, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils sont arrivés, il leur a fait passer sa femme. Pour qui il a fait passer sa femme? Il a fait passer pour sa sœur. Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'on le tue pour pouvoir prendre sa sœur. Sa femme, pardon, qui était Sarah. Parce que sa femme, elle était merveilleuse, elle était très très belle et tout ça. Ils ont eu peur qu'on lui prenne sa femme et qu'on lui convoite sa femme et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Regardez ce qui a marqué là-bas. Avraham Avinu, quand le lendemain, Abimelech, c'était un homme qui avait un peu de crainte du ciel et tout ça, il est venu le voir, il lui a dit, pourquoi tu m'as menti, pourquoi tu m'as fait ça? Il dit, toute la nuit, il a voulu aller avec Sarah et faire des averot, chas v'shalom et tout ça, et à Kadosh Baruch Hu du ciel, il l'a protégé, il l'a préservé, il lui a envoyé la lèpre, il lui a envoyé des maladies, d'impuissance et tout ça, pour ne pas qu'il puisse la toucher. Alors le lendemain, il a bien vu qu'il y avait un problème ici. Alors il est parti, il lui a dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu nous as menti? Pourquoi tu nous as dit ça? Tu nous as mis en péril avec Hachem. Qu'est-ce qui t'arrive? Regardez ce qu'Abraham Avinu lui a répondu. Amarti, rak en irat elokim ba makom azeh, va gunyal dvarishti. Il n'y a pas de crainte de l'Éternel en ce lieu dans lequel vous vivez, et on me tuera à cause de ma femme. Rabotai, on ne comprend pas ce qu'Abraham est en train de lui dire. Normalement, on n'aurait pas dû lui dire, il n'y a pas de crainte d'Hachem dans cet endroit, et on me tuera à cause de ma femme. Il aurait dû lui dire, les gens n'ont pas de bonnes midotes. Les gens, ils sont pas des bonnes qualités de cœur. Les gens, ils sont méchants et tout ça. Les gens, ils sont violents. Les gens, ils sont pas sociables et tout ça. Ils sont pas respectueux du prochain et tout ça. Donc, on va me tuer à cause de ma femme. Regardez ce que Yitzhak, il est venu dire. Abraham, il est venu dire quoi? Il n'y a pas de crainte du ciel qui réside ici. On me tuera à cause de ma femme. Rabota Yitzhak, Abraham Avinu, en train de nous dévoiler quelque chose de merveilleux. Abraham Avinu nous dit une chose, que sans la crainte d'Hachem, il n'y a pas d'amour du prochain, il n'y a pas de respect du prochain, il n'y a pas de respect de la propriété du prochain, il n'y a pas de respect de la femme du prochain. Et l'homme, s'il n'est pas canalisé par la crainte d'Hachem Yitbarach, il peut venir à tuer son prochain pour prendre sa femme. Et je vous donne une application plus concrète et plus moderne de cette chose-là, que Rabbi Elchanan Wasserman, un des grands maîtres de la Torah, nous a donné. Regardez ce qui s'est passé pendant la Shoah. Le peuple le plus civilisé du monde, la nation, la race aryenne qui se disait une race supérieure, des personnes qui étaient les gens les plus élevés dans la philosophie, dans les sciences, dans la musique. Beethoven, Strauss, Mozart et tout ça, c'était des gens très importants. C'était des gens qui étaient de très très bonne constitution. Donkeschen, Bitteschen, venez par ici, par là. Il n'y a pas un papier qui traîne par ici, par là. Là-bas, tu montes là-bas dans le bus et tout ça. Tu arrives à Bnei Brak, tu montes dans le bus. Il faut être un pilier du rugby pour arriver à monter dans le bus. Le gars, il te donne un coup par ici, par là, tu sais pas ce qui t'arrive, tu te fais balloter d'un côté, de l'autre, balotage favorable, défavorable, tu te retrouves par ici, par là, le gars, il se fait esquinter. Là-bas, donc, Keshen, Bitteshen, par ici, par là, venez par là, et tout ça, il fait des signes, et tout ça, il danse un peu, venez, rentrez par là, et tout ça, Bikeshen, Bitteshen, je connais l'allemand un peu. Vous avez vu, je me suis préparé pour venir. La mise en scène, comme d'habitude. Alors, vous comprenez, ils étaient très très civilisés, les gars. Ils étaient très bien élevés. Des gens très 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 sociabilisés. C'était un animal social et tout ça. Comment c'est possible, Rabotai? Voilà, c'est des gens les plus élevés dans toute la hiérarchie. C'est des gens qui ont fait des études, ils étaient dans les plus grandes universités, ils étaient les meilleurs en musique, les meilleurs en philosophie. C'était les gens les plus importants. Rabotai, comment c'est possible que ces mêmes qui sont censés être les porteurs des droits de l'homme, de ces hommes qui sont sortis être les porteurs de l'humanisme, ils ont été capables de la pire barbarie et des pires crimes contre l'humanité, et que, au nom de leur humanisme, ils ont assujetti des hommes à des traitements déplorables, et ils ont essayé d'enlever l'humanité au peuple d'Israël. Comment c'est possible? Pourtant, c'est des gens qui ont des bonnes midotes. Bikeshen, Danteshen, Bankeshen, viens par ici, par là, et ça, passe par là. Alors, t'as des très bonnes midotes, toi. Comment ça se fait que toi, t'es capable de tuer quelqu'un? Pourtant, mais tu étais l'homme le plus civilisé du monde. Tu as fait les meilleures études. Tu étais le meilleur à l'université. Regarde, il n'y a pas un papier qui traîne chez toi. Qu'est-ce qui se passe? Rabotai, sans la crainte du ciel, l'homme le plus civilisé de la terre, qui a le plus beau déguisement, si jamais il n'est pas canalisé, ce cheval qu'il a au fond de lui, par Akadosh Baruch Hu, et par la crainte qu'il a de son créateur, que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui dit quoi faire. Au nom des droits de l'homme, il est capable, au nom du droit positif, comme il disait Hans Kelsen, au nom du droit positif, il est capable de tuer une population, de la catégoriser parmi une population de sous-hommes, qui est l'ennemi de la race humaine, et de le tuer à ce nom. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de crainte du ciel. Il n'est pas régi par un principe qui est supranaturel. Il n'est pas assujetti à quelque chose qui est au-dessus de lui. Arbotaï, sans la crainte du ciel, il n'y a pas de midote. Quelqu'un qui n'a pas la crainte du ciel, si jamais on lui propose une grosse affaire, on lui propose une grosse affaire, on fait une grosse corruption et tout ça, si jamais il n'a pas une crainte du ciel qui est au fond de lui et qui peut le protéger et qui est un bouclier hermétique au Evel Avalim de Olamazed, aux vanités des vanités de ce monde, il ne pourra pas l'emporter, il ne pourra pas tenir. On voit Bilam ce qu'il est devenu. Bilam, c'était le prophète le plus extraordinaire et le plus grand des nations. Mais dès qu'on a commencé à venir lui graisser la patte, dès qu'on a commencé à lui donner un peu d'argent, il a oublié l'existence d'Hachem. Pourquoi? Parce que sans crainte du ciel, Rabotai, il n'y a pas de midote. L'homme qui est l'homme le plus civilisé, le plus grand patron du monde, le plus grand patron de la terre, si jamais il n'a pas à rendre des comptes à un créateur, il peut en venir à tuer son prochain pour pouvoir lui prendre les choses qu'il a. Comment c'est possible? Quelque temps avant, il avait l'air tellement bien, il avait un beau déguisement. C'est un beau déguisement, mais si Yami n'a pas cette Irat Shamaïm, il ne peut pas respecter les commandements de Ben Adam Lachaveron. Et c'est ce que la paracha nous apprend ici, Rabotai. Et il faut en être conscient. Il faut prendre conscience de ça. Alors si c'est comme ça, on peut se demander une chose. Comment ça se fait que Hillel, puisqu'on a dit que la crainte du ciel, c'est la première des vertus qu'il faut avoir avant de commencer. Comment ça se fait que Hillel, il a commencé à lui dire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » puisque c'est quelque chose de secondaire. On a voulu démontrer que c'était la chose la plus importante. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose de secondaire. Donc si c'est quelque chose de secondaire, la première des choses qu'il aurait dû lui dire quand il est venu pour se convertir, il aurait dû lui dire « Le commandement, tu craindras l'Éternel ton Dieu. » Viareta et Hashem Elokecha, c'est une mitzvah tachée de roïta. De craindre l'Éternel, c'est une mitzvah midite. Que l'homme, même quand il est au travail, là-bas à Wall Street, ou quand il est là-bas à la City et tout ça, avec son ordinateur et tout ça, tu vas bien et tout ça, Jean-Luc et tout, il est en train de faire des affaires avec toute son équipe et tout ça, il y a 12 000 personnes qui sont en train de lui parler. Si la personne dans sa tête, elle est en train de penser qu'elle aime Hashem, ou qu'elle craint Hashem, elle est en train d'être quand même une mitzvah tachée de roïta. Elle accomplit un commandement positif de la Torah. C'est-à-dire que même quand tu es en train de marcher dans la rue, tu peux penser que tu aimes Hachem ou que tu le crains, c'est comme si tu es en train d'accomplir à chaque seconde une mitzvah de la Torah. Donc normalement, il aurait dû lui dire, mon fils, tu veux respecter la Torah, tu veux faire la mitzvah, tu veux te convertir, tu craindras l'Éternel ton Dieu. Rabota, Hillel, il lui a pas répondu ça, pourquoi? Parce qu'il savait qu'un candidat à la conversion, c'est Milta de Pshita, c'est une évidence que la personne, quand elle veut se convertir, il n'y a pas d'une conversion qui est accepté par Akadosh Baruch Hu si jamais la personne n'a pas pris sur elle l'intégralité du joug de la royauté céleste. Si tu n'as pas pris toutes les mitzvot d'Hachem, une femme par exemple, elle accepte de se couvrir la tête, elle accepte de faire la cache-route, elle accepte de faire toutes les trucs, mais il y a une seule mitzvah, elle n'accepte pas de le faire, sa conversion elle n'est pas soule. La conversion elle est psoula, il n'y a pas. Ça veut dire qu'elle est inapte, elle n'est pas considérée comme juive devant Akadosh Baruch Hu. Si jamais toi tu rejettes un petit élément du judaïsme, un petit élément de la Torah, tu n'es pas considéré comme juif. Donc il a la zaken, il savait que si ce candidat-là, il voulait se convertir, cette chose-là, c'était quelque chose d'acquis déjà. Il fallait parler maintenant des choses qui étaient après cette chose-là. Rabotai, pour terminer, on voit que le Chazon Ish nous dit donc, pour insister sur cette importance de la valeur de ne pas blesser son prochain, de faire attention à lui, de venir à sa rencontre, de venir essayer de toujours le soutenir, de toujours être à ses côtés, que c'est quoi le but de la vie d'un homme? C'est de passer les 70, 80 ans qu'il a à vivre dans ce monde sans heurter la sensibilité de son frère, sans heurter la sensibilité de son prochain. Rabotai, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose de redoutable. Parce que le problème, c'est pas un bouton sur lequel tu appuies et tu dis bon, mais c'est bon, maintenant je ne heurte pas la sensibilité des autres. Parce que là, de la même façon, nous dit la Gemara que les faces des gens, elles sont différentes. Alors DOTM, Shonam aussi, leur moyen de penser et leur façon de penser, elles diffèrent également. Pourquoi l'homme il n'a pas la même face que son voisin? Pour te dire qu'il ne pense pas de la même façon. Et donc toi, même si tu as la volonté de ne pas blesser l'autre, tu dois être toute la journée sur le qui-vive, sur des braises ardentes, en train de te dire comment il va interpréter ce que je vais lui dire. Pas que tu te dis, ben c'est bon, moi je lui dis ce que j'ai envie de lui dire, et lui il n'a qu'à penser ce qu'il a envie de penser. Moi si jamais il m'avait dit ça, ça ne m'aurait pas blessé. Rabotai, il faut se mettre à la place de l'autre. Il faut faire attention à l'autre. L'autre c'est ton frère d'Israël. C'est une Neshama Kdosha et Teora, tu dois faire attention à lui. C'est l'enfant d'Hachem. Il a une étincelle d'Akadosh Baruch Hu en lui. Tu dois faire tout ce que tu peux pour ne pas lui en vouloir si il t'a blessé. Combien ces mitzvot, elles sont difficiles, Rabotai. On raconte une fois que le Rav Chaim Freelander, c'était le mashgiach de la yeshiva de Poniovitch, il avait quelques jours à vivre. Il est venu voir le Rav Shah, le Rosh Yeshiva, le maître de la génération passée, le maître de mon maître, Rabbi Emmanuel Toledano. Il est venu, il lui a dit au Rav Shah, Rabbi, je sais que je dois regagner le monde de la vérité. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut que je prenne avec moi dans mes bagages, puisqu'on m'a dit que j'avais que quelques semaines à tenir. Est-ce qu'il faut que je révise le Shulchan Aruch? Est-ce qu'il faut que je révise le Shas? Est-ce qu'il faut que je révise la Gemara, les Halachot? Est-ce qu'il faut que je me renforce dans le Shabbat? Le Rav Shah lui a répondu quelque chose, Rabotai. Il lui a dit, du temps qui te reste aujourd'hui, jusqu'au moment où tu quitteras ce monde, fais attention de ne pas blesser ton frère d'Israël. Rabotai, c'est le passeport pour l'éternité. Ne pas blesser son frère d'Israël, ne pas faire mal dans la génération dans laquelle tout le monde aime dire casser, 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 toute la journée ils se cassent les gens. C'est pas quand tu es en train de casser, on est en train de te casser dans le ciel. Tu casses une Neshama Kdosha, tu casses un frère d'Israël, tu es en train de lui faire honte en public, tu t'es privé du Olam Haba, tu l'as tué dans ce monde. Amalvim penecharavero barabim enochelek le Olam Haba. Celui qui fait blémir son prochain en public, il n'a pas de place dans le monde futur. Et nous on rigole, on dit ah ça va, il s'est même pas plaisanté celui-là et tout ça. C'est parce qu'il a changé de couleur. De la même façon qu'un mort il change de couleur, toi aussi tu l'as tué. Qu'est-ce que tu as tué? Dit le Maral de Prague, c'est pire que si tu l'avais tué. Pourquoi? Parce que quand tu le tues, au moins il va dans le Olam Haba direct. Mais celui que tu as tué par la parole, tu l'as blessé. Et je vous dis ça, c'est aussi pour nos femmes. c'est aussi pour nos enfants, c'est aussi pour nos amis. Parfois, on ne prend pas conscience de la répercussion de nos paroles. Tu dis une phrase, tu la jettes, tu ne fais pas attention. Tu dis, ah, c'était pas moi. C'était qui, ma boule? C'était le cheval qu'il y avait en toi. Tu ne l'as pas canalisé. Tu n'as pas été un bon cavalier pour le dompter. Tu ne l'as pas dressé. Il y a une parole qui est partie, ça y est, elle est partie. Ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts, ça a brisé, ça a blessé la personne. Au fond d'elle, elle a une blessure intense. Comment tu vas penser sa douleur maintenant? Comment tu vas devoir t'investir pour pouvoir faire en sorte qu'elle ait du bien en elle? Quelqu'un qui a fait blémir son prochain, il l'a tué, il sait plus que s'il l'avait tué. Pourquoi? Chaque fois que la personne... Déjà, toi, tu l'as tué. Pourquoi? Parce que tu l'as tué sa réputation. Et toute la vie d'un homme, c'est quoi? C'est de créer une image de lui autour de ses proches. On s'habille bien parce qu'on veut une bonne image. On est gentil parce qu'on veut avoir une bonne image auprès des autres. On travaille parce qu'on veut avoir une image auprès de nos amis. Tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est pour trouver grâce aux yeux des autres. Toi, t'es venu, tu lui as tué sa réputation, tu lui as ruiné sa réputation en un instant. Chaque fois qu'il va se retrouver avec les mêmes personnes, il va reblémir. Ça veut dire qu'il va mourir successivement. Donc quand tu le tues une fois, il remonte dans le ciel. Mais là, tu vas le tuer à moult reprises. Chaque fois qu'il va se retrouver dans cette même situation, il va continuer à mourir. Il dit, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et c'est ce que Rafshar, il a dit à Rav Frilander. Il lui a dit, mon fils, tu vas regagner le monde de la vérité. Fais attention de ne pas blesser ton frère d'Israël jusqu'à ce que tu partes. Et ça, c'est le passeport pour l'éternité. Deux choses. La première chose, pourquoi? Parce qu'on a dit, et on a expliqué dans ce cours au nom du Tosfot Rosh, combien ces commandements de l'homme vis-à-vis de son prochain, ils sont importants. Combien ils sont précieux. Combien il faut faire attention à sa femme. Combien il faut faire attention à ses enfants. Combien il faut faire attention à ses collègues de travail. Combien il faut faire attention à ses frères. Combien il faut faire attention à ses parents, à sa famille. Il faut faire attention à eux comme de l'huile sur le feu. Faire attention à chaque chose qu'on va dire. De mesurer les conséquences de nos actes, de nos paroles. Faire attention à faire en sorte de leur donner le mieux, qu'ils soient contents, qu'ils soient heureux, qu'ils soient épanouis, qu'on les fasse exister, qu'on leur donne du bonheur, qu'on leur donne la confiance en eux. C'est quelque chose de tellement important, il faut se mettre à la place de l'autre, à Rabotaï. Sortir un petit peu de notre égoïsme, de notre égocentrisme et aller à la recherche de l'autre, en quête de l'autre. Pas en se disant, je lui dis ce que je veux et il le prendra comme il veut. La deuxième chose, pourquoi Rafshar, il a dit ça à Rav Frilander. C'est un de mes amis, Rabbi Emmanuel Mimran, qui m'a expliqué ce pshat magnifique. Le pshat, il est merveilleux, l'explication, elle est extraordinaire. C'est marqué que l'homme, en fonction des midot qu'il a acquis dans ce monde, en fonction des qualités de cœur qu'il a reçues dans ce monde, il vivra éternellement avec. Si jamais tu es égoïste dans ce monde, tu seras égoïste dans le monde futur. Si jamais tu es généreux dans ce monde, tu seras généreux dans le monde futur. Si jamais tu es énervé, si jamais tu as les nerfs dans ce monde, tu seras nerveux dans le monde futur. Si jamais tu parles mal avec les autres dans ce monde, tu parleras mal avec pour l'éternité. Donc il a dit, mon fils, tu t'apprêtes à préparer tes bagages. Tes bagages, c'est les midot avec lesquels tu vas vivre éternellement. Fais attention de te mettre tes midot. Essaye de purifier ton cœur. Essaye de t'asseoir chaque jour pour pouvoir sonder ton comportement, ton cœur et terrain à la lumière de cette bougie qui est la Torah. Et essaye de voir qu'est-ce qui fera de toi un homme meilleur. Comme nous dit le Ramban, chaque fois qu'un homme se lève d'une séance de Torah, il devra se dire qu'est-ce qui fera de lui un homme meilleur. Parce qu'il a eu le sroud d'être éclairé par cette lumière intense de la Torah. Si jamais il ressort et que c'est la même personne qui n'a pas intégré ses principes, qui ne les vit pas, qui n'est pas la preuve de ce qu'il dit, alors on lui demandera des comptes parce qu'il a profité illégalement et légitimement du patrimoine qu'Akadosh Baruch Hu lui a confié. La chose, la Torah, c'est pas une pensée, c'est pas une philosophie, Rabotai, c'est une vie. On doit le vivre. C'est un mode de vie. C'est le mode dans lequel nous sommes les représentants et les ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu, les ambassadeurs d'Hashem Yitbarach. Et c'est donc ce qu'il nous a dit le Chazon Ish. 70, 80 ou 90 ans à passer sans heurter son prochain, comme il a dit également Rabbi Pinchas Ben Yair. Et Rabbi Pinchas Ben Yair, on comprend maintenant ce qu'il a dit. Rabbi Pinchas te dit, si jamais toi tu es capable de ne jamais avoir blessé ton prochain, tu seras capable d'ouvrir la mer. Ne jamais avoir blessé son prochain dans la vie, ça relève d'un miracle incroyable. Rabotai, ça relève d'un miracle incroyable. Comment toi tu es capable de faire attention à chaque fois, tu es revenu comme on dit en arabe, tu es venu énervé par la boule, par le sonic quand il se met en boule et tout ça, tu es revenu en boule du travail, ils t'ont tous énervé, c'est le ring maintenant. Toutes les nerfs que tu as pu passer sur tes collaborateurs et ça du travail parce qu'il fallait que tu aies une bonne image, ça, ou c'est ton supérieur, il peut te mettre à la porte à l'ancienne comme ça, il te fait passer par derrière, il t'envoie, monsieur, vous êtes limogé, surtout en Angleterre, il n'y a pas de loi sociale et tout ça, il peut te mettre à l'ancienne dehors vite fait. Il dit, tout ce que toi, tu n'as pas passé sur tes collaborateurs, tu vas venir et ça va être le ring avec ta femme, avec tes enfants et tout ça. Criminel que tu es. Pourquoi tu es en train de faire ça? Toi, tu fais le beau et tu fais le malin, tu fais le gentil devant tout le monde. Et moi, je me parle pour moi, Rabotai, je me parle pour moi, Bezrat Hashem, que je fasse tchouva moi aussi. Je fasse tchouva, Bezrat Hashem. Kakadosh Baruch Hu, que je fasse tchouva moi aussi. Tu es apprécié du monde, les gens ils t'aiment, ils ont l'impression, ouais, c'est un gentil, c'est un tzadik, il prie pour le monde et tout ça. Comment tu te comportes? La première qui témoigne pour toi dans l'Olam HaBa, Rabotai, c'est ta femme. C'est elle qui vient. Celle qui t'a vu le Khadri Khadarim, dans la petite chambre dans laquelle tu étais, où personne ne te voit, tu es à l'abri des projecteurs, à l'abri de toutes les caméras, à l'abri de ce que les gens diront de toi. C'est celle-là qui va venir témoigner. De la même façon, le mari sur sa femme, c'est lui qui viendra témoigner de comment sa femme s'est conduite avec lui, comment elle a parlé avec lui, qu'est-ce qu'elle a fait avec lui. Il dit, le Khazanish, il dit, si jamais toi tu es capable de te comporter les ma'alaminateva au-delà de la nature humaine, alors Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte que toi tu pourras transformer la nature humaine. Comment tu peux ouvrir un fleuve? Là, tu t'es comporté de façon surhumaine, alors on peut faire des choses qui sont surhumaines. Rabbi Pinchas Ben Yair, c'était peut-être le seul dans toute sa génération, et c'est ce qu'il a répondu à cet Talmidim, qui avait été capable d'avoir la clairvoyance, la lucidité, la prudence, de faire attention de ne jamais blesser sa femme, de ne jamais blesser son prochain, de ne jamais blesser cet Talmidim, ses enfants. Toute sa vie, il a fait attention. Comme on raconte sur Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, un des grands maîtres de la génération passée qui nous a quittés, qui était le Rosh Yeshiva de Kol Torah. On raconte qu'à Salevaya, de sa femme, quand sa femme l'a quitté, ils sont tous venus pour faire le traditionnel mea culpa. Ils sont venus demander le pardon, le mechila traditionnel qu'on doit demander pendant les jours de Rosh Hashanah, de Kippour. C'est le moment où on doit s'annuler, le moment où on doit travailler contre nous-mêmes, même si on est, l'autre il est en tort et qu'il nous a fait les pires choses, on doit lui pardonner. Il est venu pour demander pardon à sa femme, si de son vivant il n'avait pas eu le temps de se faire pardonner. Tous les membres de la famille sont venus demander pardon. Quand est arrivé Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il est arrivé, il leur a dit, mes chers amis, je vous demande pardon. Mais au nom de la vérité, au nom d'Akadosh Baruch Hu, je me dois de ne pas dire pardon. Parce que toute ma vie, je peux attester, et ma femme pourra attester, Akadosh Baruch Hu m'en est témoin, je n'ai jamais blessé ma femme. Je n'ai jamais procuré en elle un sentiment qui va la froisser, un sentiment qui va lui faire mal au cœur, un sentiment qui va lui mettre dans une situation inconfortable. Toute ma vie, j'ai fait attention et j'ai été prudent de l'aimer, de la chérir, de la choyer, de la mettre en avant, de faire attention, de la protéger. Et Rabotaï, par quel mérite ? Un homme, il est capable de faire ça et il est capable de le dire aussi. Pourquoi il le dit, c'est un balgartan? Deux raisons pour lesquelles il dit. Parce que premièrement, c'est un homme qui a toujours lutté pour la vérité. Deuxièmement, pour montrer aux gens que c'est possible de le faire. C'est possible d'arriver à un tel degré. Mais quelle est la seule clé qui peut nous permettre d'arriver à ce degré, Rabotaï? C'est d'être un Talmid Chacham. D'être quelqu'un qui étudie la Torah. D'être quelqu'un qui recherche la volonté d'Hachem pour pouvoir l'accomplir. Quelqu'un qui recherche le mode d'emploi pour bien vivre, pour respecter, pour honorer sa femme. Comment il va honorer sa femme? Comment une femme elle va honorer son mari et le respecter si elle ne sait pas comment il fonctionne? L'homme et la femme, c'est deux antithèses, c'est deux antipodes, c'est les agneaux et les cations, c'est le sulfate de cuivre anhydre, SO4 de moins. Je me rappelle de cette formule et tout ça. Eh ouais, c'est SO4, c'est lui. Le calcium, c'est A2+, et c'est SO4 de moins, il se compense, tout ça. C'est deux qui se compensent. Si jamais toi, tu ne fais pas en sorte de mettre la solution aqueuse là-bas, c'est la Torah Akdosha, elle vient, elle va pouvoir les ramener. Ces deux éléments qui sont a priori. Deux êtres qui sont complètement aux antipodes l'un de l'autre. À partir du moment où toi tu es comme l'eau, l'eau elle coule, elle se laisse aller du point le plus haut vers le point le plus bas. L'eau elle est essentielle, Rabotaï, comme elle dit la Gemara dans Ta'anit à la page 7. L'eau tu ne peux pas vivre sans elle, sans la Torah tu ne peux pas vivre dans ton couple. L'eau tu ne peux pas vivre sans elle, de la même façon cette eau elle descend du point le plus haut vers le point le plus bas. Elle va avec les gens qui sont humbles. Dans le couple il faut être humble, de reconnaître. Et Bedrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse faire tchouva, Bedrat Hashem. J'ai tort. C'est ça la grandeur, Rabotaï. J'ai tort. Je viens reconnaître mon tort devant ma femme. C'est ça la grandeur d'un homme. C'est pas de se dire toujours c'est moi qui ai raison, c'est moi le patron, c'est moi qui m'impose. Au Maroc là-bas, la femme elle peut pas avoir raison, c'est interdit là-bas. Ça t'a mis les babouches, le terbouche et tout ça, ça veut dire que t'as raison, parce que t'es l'homme. Rabotaï, j'ai tort. C'est la plus grande grandeur d'un homme. Pour vous dire encore sur Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, je repense à une histoire extraordinaire. Pour vous montrer jusqu'à combien c'était un aristocrate, jusqu'à combien il faisait attention au kavod des moindres personnes, les plus éloignées même de la Torah. Un jour, il est monté dans le bus à Yerushalayim. Et là-bas, malheureusement, il y avait une femme, elle était arrivée avec une tenue pas très très décente, pas très pudeur, pas très pudique et tout ça. Elle avait oublié que c'était la fille du roi. Elle avait oublié que c'était la fille d'Akadash Boku. Elle est venue faire la jardinière là-bas du jardin japonais. Elle est venue avec son mini-short là-bas. J'ai vu des trucs à Londres, je vous dis pas ce qui se passe. J'ai dû enlever mes lunettes à plusieurs reprises, je me suis fait agresser sur la rocade et tout ça. Chaque fois que je marchais, je voyais des gens qui arrivaient par ici, par là. J'ai vu que la mode ici, c'est de se mettre avec un truc qui arrive jusqu'ici. Hein. Et des collants noirs comme ça, mais le truc, il n'a pas le droit d'arriver. Je crois que sinon on est verbalisé d'ailleurs par la police. Il n'a pas le droit de faire en sorte qu'il arrive un peu plus bas que les fesses, sinon c'est interdit. C'est un grand histoire de Roïta de faire ça. Donc j'ai fait attention, moi je me suis protégé, j'ai essayé de faire attention. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il y avait une femme là-bas, elle a oublié que c'était la fille du roi. Elle est venue comme une femme, la jardinière là-bas, du jardin, avec son short et tout ça. Elle s'est mise à côté du Rav. Le Rav, il était embêté, Rabotaï. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, si jamais je reste à côté d'elle, les gens, ils se diront, qu'on a le droit de rester à côté de la jardinière, alors que c'est interdit. Parce que l'homme, il doit faire attention à sa neshama et à ses yeux. Est-ce qu'il voit, ça a des répercussions sur ce qu'il comprend de la Torah et comment il parle à sa femme et sur les conceptions qu'il a quand il est en train de concevoir un enfant. Si jamais là-bas, il n'a pas protégé ses yeux, il a vu les londoniennes avec leurs shorts et tout ça, quand il va faire des choses et tout ça, il ne pourra peut-être pas avoir des kavanot, de choses hétérotes. Et dans la neshama qu'il aura, ce ne sera pas une neshama qui sera du plus haut niveau qu'il aurait pu avoir. Parce que les kavanot, elles sont les pensées qu'on a au moment de la relation. Et elles sont consécutives à ce qu'on a vu pendant la journée, comme on a préservé, protégé ses yeux. Et ça, c'est fonction de la crainte du ciel qu'on a. Est-ce que tu lèves les yeux quand tu vois passer le bolide ou est-ce que tu les baisses? Parce qu'il y en a qui disent, oh, regarde le bolide. Il y en a qui disent, ne regarde pas le bolide, Rabbi. Au contraire, ne regarde pas ça, ça va te faire mal au cœur et ça va te faire mal à l'Neshama. Si jamais la personne elle est capable de faire attention à ça, elle a des Neshama de Kdoshot. Le Rav Shlomo Zalman, il n'avait pas le droit de rester avec cette femme. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il dit, si jamais je reste avec elle, les gens ils penseront qu'on a le droit de rester avec elle. Si jamais je me lève maintenant et que je change de place, je vais la blesser. C'est une fille d'Israël. C'est une tzadikette. Elle ne sait pas, la pauvre. Elle n'a pas appris. Est-ce que je pourrais blesser une fille comme ça? Est-ce que je pourrais venir et la heurter? Est-ce que je pourrais venir et lui faire honte devant tout le monde? De lui montrer que ce n'est pas un être humain, on ne peut pas s'asseoir à côté d'elle. Cette fille-là, elle n'avait pas compris. Ce n'est pas de sa faute. C'est une fille qui est née dans la jungle. Elle ne comprend pas. C'est pour ça qu'elle se met comme dans la jungle. Elle, Tarzan. Sinon je vais pleurer, alors il vaut mieux qu'on fasse des blagues. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait Rav Shlomo Zalman? Il avait 60, il avait 80 ans ou 70 ans ou 80 ans. Il s'est levé, il a appuyé sur arrêt, il est descendu à l'arrêt. Il a attendu sous le soleil pendant 20 minutes que le prochain bus y vienne pour le chercher. Il est descendu de son bus Rabotaï alors qu'il n'était pas à sa station pour ne pas blesser une fille d'Israël. Parce qu'il avait à cœur de protéger, de préserver l'intégrité et la valeur d'une fille d'Israël. Rabotaï, ça n'a pas de prix. Qui c'est qui peut penser à une telle idée? Qui c'est qui peut penser à une chose pareille? Si ce n'est pas quelqu'un qui a étudié la Torah et qui s'est renforcé, que toute sa vie il a cherché Hachem. Il a cherché Hachem et il a cherché en l'autre l'étincelle d'Hachem pour la respecter et pour l'honorer. Rabotaï, sans la Torah on ne peut pas arriver à des degrés comme ça. Le gars il se lève, il se dit, c'est la lacha, qu'elle crève. C'est une femme, elle est mal habillée, tant pis. Elle n'a qu'à crever. Rabotaï, le maître de la génération, il arrive en retard à la yeshiva. Il rate son shiur, il rate ses choses. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de blesser une fille d'Israël. On n'a pas le droit de blesser un frère. Parce que c'est précieux un frère d'Israël, Rabotaï. C'est des gens qui sont précieux. Chacun des enfants d'Israël, ils sont précieux. Je terminerai pour vous dire une chose, mes chers amis. On voit que Rabbi Yehuda Hanassi, je vous ai dit que sans la crainte du ciel, on ne peut pas faire les commandements de l'homme vis-à-vis de son prochain. Et on comprend bien la première Mishnah de Brachot. C'est marqué là-bas dans Brachot, mais Emtai Korin Kiryat Shema Bervit. À partir de quelle heure l'homme doit lire le Kiryat Shema le soir? C'est la première Mishnah de tout le Talmud. Rabotaï, pourquoi on est en train de commencer la première Mishnah de tout le Talmud par une mitzvah de Shema? C'est vrai que c'est une mitzvah très importante de Horaïta et tout ça qu'on fait le Shema, c'est très important. Mais il y a d'autres mitzvahs qui sont plus importantes, la Tzitzit. Le Tzitzit, celui qui porte le Tzitzit, Bedrat Hashem, je peux vous en acheter un ou je peux vous le faire à la main. Si jamais il y en a qui veulent, je le fais à la main parce que je vous aime. Et je ferai des bonnes kavanot, comme ça vous allez être riche et vous allez être protégé. C'est l'armure contre les femmes. Les femmes qui ne sont pas les nôtres, bien sûr. Parce que avec notre femme, j'ai vu une chose, c'est magnifique. Le tzitzit, c'est une armure contre les femmes qui ne sont pas les nôtres. Et c'est une super glue avec les femmes qui sont les nôtres. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça fait le shalom bayit avec sa femme. Et ça fait le milchama, avec la guerre avec les autres femmes. C'est quelque chose à double tranchant. C'est une arme à double tranchant, comme on dit. Black et Decker. Très important. Alors le tzitzit, c'est marqué Keneged Kulam. Celui qui met le tzitzit, c'est comme s'il respectait toute la Torah. Celui qui garde le Shabbat, c'est comme s'il respectait toute la Torah. Comment ça se fait qu'on n'a pas ouvert cette Gemara de Maseret Brachot, le premier Talmud, en nous disant ça? C'est pour nous dire une chose, encore une fois, que Reshit Chochma Yirat Shamayim, Reshit Chochma Yirat Hashem, les prémices de la sagesse, comme nous a dit David Ameller, c'est la crainte du ciel. Tu veux commencer à étudier la Torah, tu veux commencer à étudier le Talmud, sache une chose. C'est que la première page du Talmud, c'est la page bête. C'est quoi la page Aleph? La page Aleph, c'est la crainte du ciel. Si tu as la crainte du ciel, que tu veux faire en sorte d'annuler ta volonté devant Hachem, que tu reconnais l'existence d'Hachem, que tu prends sur toi le joug de la royauté céleste, alors tu pourras faire en sorte de commencer à étudier et tu pourras commencer à respecter toutes les mitzvot. Mais sans ça, tu ne pourras pas le faire. Et quel est notre problème, Rabotaï? Pourquoi on n'arrive pas à le faire finalement? Pourquoi on n'arrive pas à faire les commandements de l'homme vis-à-vis de son prochain? Pourquoi on n'arrive pas à faire les commandements de l'homme vis-à-vis d'Hachem? Le Rabbi Akiva, il avait dit une fois, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la règle générale de toute la Torah. Encore une fois, se repose la question qu'on avait posée au début. C'est vrai que ça, c'est une loi des commandements de l'homme par rapport à son prochain. Mais qu'en est-il des commandements de l'homme par rapport à Hachem? Dans ce volet-là, ils n'ont pas l'air d'être inclus. Rabotai, regardez bien ce que le Rav Eman, Roche Shiva d'Épinay, il avait dit une fois quelque chose de magnifique. Quel est le problème qui tient à distance l'homme d'Akadosh Baruch Hu et de son prochain? C'est le fait que l'homme, il est égoïste. C'est que le fait que l'homme, il pense qu'à lui-même. Que l'homme et la femme, ils ont cette vocation à être égocentriques et ne pas aller vers l'autre. Toujours, ils regardent qu'est-ce que les choses, est-ce que ça me convient, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est bien, et tout ça. On est à la recherche de soi-même, Rabotai. Ça veut dire de son plaisir personnel. Et c'est mauvais, ça, Rabotai. C'est mauvais, parce que la personne, quand elle va toujours à la recherche d'elle-même, de son plaisir, de son profit personnel, c'est quelque chose qui la tient à distance du monde, c'est quelque chose qui la tient à distance d'Hachem. La personne, elle n'a pas envie de faire d'efforts. Elle n'a pas envie de se battre. Elle n'a pas envie de voir un petit peu ce que l'autre, il recherche. On recherche l'autosatisfaction, comme on voit aujourd'hui, malheureusement, dans les relations. Pourquoi les gens, ils n'arrivent pas à se marier? Ils n'arrivent pas à se marier parce qu'ils ne recherchent pas l'autre, quelqu'un à qui ils vont donner. Ils recherchent quelqu'un dont ils vont pouvoir prendre. Tu veux profiter de l'autre, tu ne veux pas lui donner. Et pour pouvoir trouver la femme qu'on aime, la femme de notre vie, il ne faut pas chercher celle qui nous rendra heureux, il faut chercher celle que nous, on rendra heureux. Parce que le monde, il a été créé pour donner. Plus tu donnes, plus tu t'accomplis, plus tu es heureux. Et donc, à partir du moment où tu comprends cette chose-là, ta capacité d'être heureux ne dépend pas de celle de recevoir. Donc, elle dépend de toi. Plus tu donnes, et plus tu seras heureux. Et les gens, malheureusement, ils sont à la recherche de l'autre. Ah non, mais nous, on s'aime, on a des relations avant le mariage et tout ça, mais c'est de l'amour et tout ça. C'est de l'amour pas platonique et tout ça. Rabotai. Un jour, le Rav Dessler, il a dit, au nom de Rav Israël Salanter, à un gars, il dit, vous aimez le poulet, vous? Il lui dit oui. Et vous aimez le poisson? Il lui dit oui. Il dit, les gars, ils sont passés à table et tout ça. Il dit, alors qu'est-ce que vous mangez? Alors moi, je mange un poulet, s'il vous plaît. Et vous mangez quoi? Je mange un poisson. Il dit, mais comment ça? Vous m'avez dit que vous aimiez le poulet et le poisson. Comment c'est possible que vous aimiez le poulet et le poisson puisque vous avez commandé? Si vous l'aimiez, vous l'aurez mis une laisse à ce poisson rouge, vous l'aurez fait tourner dans le bocal. Hal Jacob, le poisson de Arnold Lewis, il aurait tourné le poisson là-bas. Il a commencé à tourner, tout ça, il va, très bien. Le poulet, il amène le poulet avec lui. Alors, droba, ouya, viens avec moi le poulet, tout ça. C'est Foutix, la mascotte de la Coupe du Monde, et tout ça. Il amène avec lui, avec la laisse, très bien. Qu'à cela ne tienne, voilà le petit poulet, il est là, il est présent. Tu l'as mis avec ta laisse. Si toi, tu l'as dans ton assiette, Habibi, ton poulet et ton poisson, est-ce que ça veut dire que tu les aimes? Tu aimes la sensation que ce poulet y procure quand il est en train de passer dans ton palais. Tu aimes la sensation que ce bon mérou là-bas, ce bon sabel, il est en train de passer dans ton palais, il te procure une satisfaction. Ça veut dire que tu t'aimes à travers ce poulet. Tu n'aimes pas ce poulet. De la même façon, il dit, j'aime la femme. Habibi, si tu l'aimais, tu te serais marié avec elle. Tu lui aurais donné un statut, tu l'aurais respecté comme une fille des rois. Tu l'aurais pas traité là-bas comme la marboula là-bas du Pax. Que tu peux faire ce que tu veux avec elle, du jour au lendemain tu la sépares, tu la renvoies là-bas, ça y est, on n'a plus de relation, on ne se connaît plus. Ah mais attends, mais je pensais que tu m'as dit que tu m'aimais la veille. Ah ouais, mais je me suis trompé. Je t'ai trompé, je t'ai pas trompé en fait. Je t'ai trompé parce que ça t'arrangeait de pouvoir... C'est quoi je l'aime en fait? Je m'aime à moi-même, c'est l'autosatisfaction de laquelle je suis à la recherche que j'aime en cette femme. C'est le sentiment qu'elle me procure, le sentiment de bien-être et de jouissance qu'elle me procure à ce moment-là. C'est ça que j'aime. Rabotai, ve'aftal erecha kamocha, zeklal gadol batora. Pourquoi? C'est que la garde de la Torah, et ça nous aide à faire même les commandements de l'homme vis-à-vis d'Hachem. Parce qu'à partir du moment où toi tu es capable de sortir du levado, tu es capable de sortir de ton égoïsme, tu es capable de sortir de ta recherche, de ton bonheur et de ton plaisir personnel, et tu es capable d'aller à la recherche de l'autre, de l'aimer, de le chérir, de l'aimer comme toi-même, de t'investir pour lui, de le faire exister, de le faire vivre, de lui donner des bonnes choses. Alors là, à partir du moment où toi tu es capable de sortir de ce levado, tu seras capable d'aller à la recherche d'Akadosh Baruch Hu. Parce que quel est le problème de la génération, mes chers frères? C'est pas qu'on a des problèmes de foi, qu'on croit pas en Hachem, on croit en Hachem tous autant qu'on est. Quand je vois vos visages rayonnants et lumineux, c'est sûr que tous vous croyez en Akadosh Baruch Hu. Vous avez des têtes tellement merveilleuses que vous avez la lumière d'Hachem sur vous. Comment on peut ne pas croire quand on voit ce monde si parfait, quand on voit cette humanité magnifique, quand on voit ce cieux qui crie la louange d'Hachem et qui dit qu'il y a un créateur dans le monde, quand on voit ces petits enfants? Moi je vous dis, quand je vois mon enfant, je suis sûr qu'il y a un créateur qui est tellement, il a dessiné magnifique, il est merveilleux. Bonsoir, c'est Kana. Je vais lui caresser la tête et je vais l'embrasser pour vous demain et tout. Mais c'est pas possible. Il y a Kadosh Baruch Hu, il est là dans le monde, il est présent. C'est pas possible. Il est présent, Hachem. Donc comment se fait que tu fais pas la Torah? Tu fais pas la Torah, Habibi. Parce que tu dis que tu crois pas parce que ça t'oblige. Parce que tu dis que tu crois pas parce que tu es un paresseux. Parce que tu dis que tu crois pas parce que ça va t'obliger à faire des choses. Donc tu préfères dire, pour que ta conscience elle soit en paix, que toi tu crois pas en Kadosh Baruch Hu parce que ça engendre des conséquences. Ça va engendrer un mode de vie sur toi. ça va engendrer un mode de vie qui va être a priori difficile. Et comme toi, tu n'as pas envie de sortir de ton petit confort personnel, de ton petit ego, de ton petit égoïsme, alors toi, tu vas dire, mais moi, je ne crois pas. Tu crois en Hachem. Simplement, tu as peur que ces répercussions de ta croyance, elles vont avoir dans ta vie. Que tu vas devoir faire la Torah, tu vas devoir faire les mitzvot et tout ça. Donc à partir du moment où toi, tu es capable de sortir de ton levado dans la relation que tu as par rapport à ton prochain, que tu es capable de t'investir pour l'autre, alors tu seras capable aussi de t'investir pour Akadosh Baruch Hu, parce que puisque tu es sorti du levado, tu es sorti de ton égoïsme et de ton égocentrisme, alors il te sera facile après d'aller vers Akadosh Baruch Hu pour faire la Torah et les mitzvot. Et tu t'apercevras, mon cher ami, que la plus belle lumière et la plus grande douceur qu'il y a dans ce monde, goûtez le fruit de la Torah et vous verrez comme il est bon. A priori, le gars, il se dit, mais la Torah, c'est difficile, c'est des contraintes, c'est des restrictions. Rabotai, la Torah, elle donne le statut de reine à la femme. Elle lui permet d'être une reine chez elle. Elle lui permet qu'on l'honore, qu'on la respecte, qu'on lui fasse des bonnes choses. Elle suscite le plaisir et l'attirance perpétuelle, comme il dit Rabbi Akiva, ou Rabbi Meir, dans la Gemara. À chaque fois que je faisais les lois de Mikveh, je retrouvais ma femme et je disais là-bas une neuve, comme c'était le premier jour de mon mariage. Cette Torah, elle permet de ne pas avoir des relations avec tout un chacun pour pouvoir avoir la satisfaction. La Torah, elle te permet d'optimiser les plaisirs de ce monde. Mais Bezrat Hashem, à partir du moment où on sera capable de prendre conscience de ça, on reviendra vers Akadosh Baruch Hu par rapport à toutes les choses qu'on a fait contre lui. Rabotai, on s'est chargé d'une pellicule de graisse, d'une pellicule noire, à la manière de Beethoven, le Labrador, et quand il s'est roulé dans la boue et tout ça. Mais la Torah, Rabotai, la Torah Gdosha, notre Torah de lumière, c'est une douche rafraîchissante à l'huile de jojoba. C'est une lumière intense que l'homme il va se laver. Il a beau s'être chargé de cette pellicule obscure, à partir du moment où il va laver sa neshama, il va laver sa neshama avec l'eau de la Torah Kdosha, il va revenir vers Hachem, il va regretter, il va revenir vers ses frères, il va prendre le GPS de la Torah pour pouvoir voir quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu et quel est son bonheur dans ce monde. Il va voir ses frères, il va dire il faut que je fasse, je demande pardon pour tout le mal que je leur ai fait, et désormais grâce à la Torah je pourrais être meilleur avec mon entourage, je pourrais être une source de lumière auprès d'eux, je pourrais être quelqu'un de bien. Alors Bezrat Hashem, à ce moment-là, il verra combien Akadosh Baruch Hu il est bon, comment il se rapprochera de lui, et il goûtera au vrai plaisir de la vie, c'est d'être proche de son Créateur. Qu'Akadosh Baruch Hu il puisse faire qu'on puisse tous se renforcer, qu'Akadosh Baruch Hu qu'on puisse faire Teshuvah chez les mains. Dans ces jours-là, c'est marqué que la Teshuvah qu'on fait Betzibur, elle déchire même les plus grands décrets négatifs qu'il y a eu, et ils sont déchirés par la Teshuvah Betzibur, en collectivité. Et pendant les 10 jours de Teshuvah, la Gemara dans Maaseret de Rosh Hashana, la page 18, elle nous dit que même si une personne toute seule, elle fait Teshuvah, elle peut déchirer les décrets. Alors je sais qu'il y a des décrets qui sont sur le clan d'Israël. Il faut qu'on fasse attention et qu'on se porte garant et solidaire de tous nos frères qui n'ont pas eu le sroute d'avoir ces shiurim de Torah qui leur arrivent jusqu'à eux. Il faut qu'on pense à eux, qu'on fasse Teshuvah pour eux, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de rétablir le kavod de sa malchut dans le monde, qu'on lui demande de faire en sorte de revenir dans ce monde. Pas qu'on lui dise à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la parnassa, donne-moi la santé, donne-moi les enfants, donne-moi les trucs et tout ça. Ça ressemble à quelqu'un qui est dans un puits, qui est tombé, qui s'est cassé une jambe, il est dans un puits profond et obscur. Et il demande à Kadosh Baruch Hu, dans ce puits, donne-moi un peu de bamba, de shawarma, de falafel et de pita. Je veux rester dans ce trou-là. Envoie-moi un peu de mercurochrome, le pansement des héros et tout ça. Le gars, il s'est cassé la jambe, il s'est ouvert la tête et tout ça. Il est là. Habibi, ce roi, il est venu à ta rencontre pendant ces 10 jours de Tshuva, tu l'as abandonné, tu es parti loin de lui. Ce roi, il est venu à ta rencontre, il est en train de te demander, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Dis-lui, papa, Hachem, je me suis éloigné de toi, je t'aime. Je veux revenir à côté de toi. Je sais que tu es bienfaisant et que tu m'aimes toi aussi. Alors fais en sorte de me sortir de cette obscurité. Dévoile la majesté dans le monde. Dévoile la majesté de ton kavod, de ton honneur, de ton règne dans ce monde. Et par ce mérite, puisque Akadosh Baruch Hu il régnera dans le monde et il dévoilera le kavod du Mashiach, Bezrat Hashem, Bimera, Bimenu, alors tous les problèmes qu'on aura de Wall Street, de la City, de la santé, de toutes les choses du monde, ils seront résolus, Bezrat Hashem.